Avec quel sujet allez-vous tenter de séduire aujourd'hui notre invité et le public venu nombreux?
Alors, l'autre soir, je somnolais, enfin, je cherchais un sujet de chronique pour cette émission, quand soudain, je tombe sur cette étrange vidéo. Une jeune femme à lunettes noires, seule au piano, un look gentiment barré qui fredonne cette mélodie familière à mes oreilles. C'est Scorpion, c'est Still Loving You. Alors d'abord, j'ai pensé au nombre incommensurable de vestes que je me suis prises avec ce slow.
Moi, genre, Jean-Philippe, tu t'es pas pris des vestes avec ce slow.
Ensuite, je me suis demandé qui est cette femme mystérieuse qui aime manifestement les chansons pour les gens comme moi, les chansons pour les vieux. Allume ton briquet, mon ami. Autre slow, autre veste. Lui, c'était Phil Collins. Et la chanteuse, c'est qui? Eh bien, c'est Claire Kem. Oui, Claire Kem, la comédienne qui chante aussi parfois. Vous vous souvenez, elle avait fait un duo, notamment avec Marc Lavoine.
Même si nos raisons nous séparent, même si nos vies...
Alors tout ça, c'était très bien, sauf que cette fois, Claire Kem est toute seule avec son piano et ses vidéos, elle les fait un petit peu à la One Again. Là, vous avez reconnu ? C'était Yes, le groupe Yes. Alors c'est bricolé avec son téléphone posé sur son bureau, pas coiffé, pas maquillé, effringué, alors un peu n'importe comment. Il y a des perruques, il y a des casques de VTT, il y a aussi des peluches, des brassières gonflables pour la piscine, oui oui. Le tout donc avec un goût prononcé pour les années 80. Sauras-tu reconnaître ce groupe de hard rock ?
C'est quand l'OM entre en jeu au Vélodrome.
Oui, c'est Van Halen, ça Jump. S'appelle Jump.
Alors, c'est chacun ses références, excusez-moi. Star Rock, par contre, je suis OM.
C'est complètement décalé, vous entendez. C'est très bien interprété, c'est assez tendre et c'est assez drôle, finalement.
Mais elle prépare un nouveau spectacle, la Claire Kem, c'est pas possible.
Excellente question, Mathieu. Et justement, la réponse est non. C'est le plus beau dans cette histoire.
Elle le fait
histoire.
Pour le plaisir, mais il y a quand
même
un peu de
com' derrière. Cette vidéo, elle a commencé spontanément, comme c'est un peu par hasard. Alors depuis, elle a des milliers de fans sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Mais elle veut surtout pas exploiter le filon. Je vous cache pas que j'ai essayé de l'interviewer, Claire Kem. Je l'ai un peu
tanné. Vous avez encore pris une veste ?
Gentiment, elle m'a répondu non, parce qu'elle veut pas justement que son truc soit pris au sérieux. Elle a plein de messages de félicitations, elle a plein de propositions un peu pour monétiser tout ça, comme on dit. Mais le fait vraiment pour le plaisir et je trouve ça très bien, je trouve ça rare d'ailleurs sur les réseaux, ça castagne un peu régulièrement. Je trouve ça bien
positif.
Qu'une artiste fasse les choses un peu spontanément, gratuitement. Allez voir son compte Twitter à Claire Kem, vive les chansons pour les vieux et vive notamment sa reprise de Kate Bush.
She wanted to test her husband. She knew exactly what to do.
Vous avez expliqué, elle s'accompagne au piano ?
Elle joue au piano et elle a un bien meilleur accent que vous, Mathieu.
Ça, je vous en prie, Jean-Philippe, je ne vous permets pas. I don't permit. C'est comme ça qu'on dit. J'ai fait un an d'études en Angleterre, il y a très longtemps. Merci Jean-Philippe Ballas. Vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Ève Roger. Oula, elle a son regard des mauvais jours. Elle a son regard terrible.
Jean-Philippe, est-ce que vous sauriez me citer deux films dans lesquels a joué Claire Kem ?
Ah, la question.
Vache ?
Non, j'avoue, non, je ne sais pas.
Bon, je vous en donne deux que je connais. Respire, de Mélanie Laurent. Et Arrête ton cinéma, de Diane Curis.
Oui, bah arrêtez de faire des chroniques avec le mot sexe dedans. Déjà, Ève Roger, ça nous rendra service.
Calmez-vous, ne nous engueulons pas pour ça. Merci Jean-Philippe Ballas-Cherberling. Vous aussi, quelque part, vous reprenez des chansons des années 80, en tout cas pour la bonne cause.
Lipstick pour les hommes.
Tous les bénéfices iront à l'association Mettez du Rouge qui lutte contre les violences faites aux femmes. Mais en 2012, vous nous en parliez, vous aviez fait un album intitulé Jeune chanteur. La chanson est donc une de vos passions. Vous chantez sous la douche, Cherberling ?
Ah oui, j'ai toujours chanté. J'ai toujours aimé chanter. Toujours.
Et la musique et la guitare aussi, je crois.
Ah oui, bah, quand on avait 13-14 ans, on reprenait les chansons de Brassens, de Bob Dylan, forcément. Mais il suffit d'avoir 2-3 accords et puis hop, ça y allait.
J'ai l'impression que ça marchait mieux avec les filles que Jean-Philippe Ballas. Je vois Jean-Philippe qui est pas bien.
Mais non,
mais
il faut chanter, c'est beau de chanter.
Lui, il continue de chanter, les amis, encore et encore. Samedi dernier, au karaoké du CE à 5h du mat, on a été obligé de couper son micro. On applaudit quand même Jean-Philippe Ballas. Depuis quelques jours, vous êtes au Théâtre L'Européen pour votre spectacle qui s'appelle Titre. Alors, Je vous raconte comment ça s'est passé quand on a préparé cette émission. J'ai cru que dans le dossier, ils avaient oublié, ils n'avaient pas encore le nom du spectacle et ils m'avaient mis titre. Donc j'attendais, j'avais mis en jaune pour pouvoir tout remplacer au dernier moment. En fait, le spectacle s'appelle vraiment Titre.
Et oui.
Pourquoi ?
Et parce que chaque soir, le titre du spectacle peut être différent en fonction de ce qui s'y passe. Et aussi titre parce qu'il faut tout le temps donner un titre aux choses, comme il faut tout le temps mettre les gens dans des cases. Et j'avais pas envie de nommer, j'avais pas envie de... Voilà. J'avais envie de dire que chacun choisisse son titre. Et puis c'est un peu comme juste le blanc, quoi. C'est juste.
Alors, sans dévoiler exactement tout ce qui se passe dans le spectacle, qui n'est d'ailleurs jamais le même chaque soir, par définition.
Non, je ne joue pas tout. C'est pas moi qui joue tous les soirs.
C'est pas vous tous les soirs. Parfois, il y a votre doublure, évidemment. C'est pas mal aussi. Il est bon aussi. Hein.
Il est très, très
il
fort.
Il est bon. Jarou. Hein. Il est pas mal, Jarou. Non, mais c'est un échange avec le public. C'est incroyable ce degré d'improvisation. Par exemple, moi, je ne fais pas de one-man show, évidemment, mais disons que je suis plus dans l'écriture. Tout a besoin d'être écrit. Vous, on a le sentiment que vous êtes vraiment un roi de l'impro. Vous pouvez partir chaque soir dans un délire complètement différent.
Mais je crois que c'est important parce que comme les gens chaque soir sont différents et que moi mon état émotionnel est différent, il faut aussi que je m'adapte aux gens qui viennent. C'est comme quand vous recevez des gens qui viennent manger chez vous. Vous adaptez
un
quoi.
Un plat différent.
Voilà, au dernier moment, quelqu'un peut vous dire je suis sans gluten et là vous vous dites oh non, j'avais préparé du pâté en croûte. Et là vous partez sur voilà une petite salade. Et ben, j'ai envie de m'adapter avec les gens et puis parce que l'ossature du spectacle est assez claire pour moi, donc je peux divaguer, revenir.
Comment oui, Eva Rock.
Pardon, est-ce qu'il y a une grande différence de timing entre un spectacle et un autre ? Parce que nous, le jour où on est venu vous voir, je pense qu'il y avait 10 minutes, voire un quart d'heure d'intro où on sentait que vous étiez complètement en impro et je me suis dit, mes spectacles vont durer 2 heures au lieu d'une heure et demie. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence ?
En fait, non, parce que j'ai une horloge qui est en face de moi et je dois faire 1h20 précise. Donc, du
vous
coup,
suivez ça ?
Eh oui, sinon le monsieur du théâtre, il vient avec un taser et il règle mon compte.
Vous dites, la scène, c'est le seul endroit où personne ne peut intervenir pour me dire ça, tu ne peux pas le faire. Est-ce que néanmoins, vous vous auto-censurez, vous vous fixez des limites dans l'humour ? On parle beaucoup de ça aujourd'hui avec les humoristes. Est-ce qu'il y a des limites sur les blagues qu'on peut faire ou les domaines sur lesquels on ne va pas ?
Des fois, je m'interdis avant de monter sur scène, de, par exemple, en fonction de l'actualité du jour, d'y aller. Mais souvent, quand je m'interdis, c'est la première chose que ma bouche dit. Et quand elle l'a dit, je fais « Ah oui, ah bah, je l'ai dit. Ah bah, dis donc. »
C'est sorti.
Voilà. Au revoir.
Vous triomphez. On peut utiliser le mot « triompher » vu que vous avez fait sale comble de janvier à juin en tournée. Vous triomphez à l'Européen à Paris. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne connaissent pas l'univers Jarry ?
Ah oui, alors souvent les gens quand vous leur demandez de quoi t'as envie, ils te disent j'ai envie d'un voyage, d'une plage, d'une mer chaude, ben voilà, c'est exactement ce qui se passe à l'Européen. Donc j'ai envie de te dire ne te prends pas la tête avec un décalage horaire.
Voilà. Viens.
Viens en slip d'ailleurs si tu veux, on s'occupe du reste.
Alors votre spectacle, le titre est un hommage aux femmes, aux mamans, spécialement à votre maman. Enfin, quand je dis un hommage, il faut peut-être que je tempère un peu l'expression, car vous décrivez votre mère, vous dites « c'est un mélange entre Baïté et Moundir ».
Oui.
Visuellement, je...
Ouais, ça donne faim. Parce que je crois qu'on peut rire de tout, et du coup, il fallait que je me moque de la personne que j'aime le plus au monde pour dire aux gens « voilà, regardez, moi-même, je dis des horreurs sur ma mère, donc voilà, détendez-vous ». Parce qu'aujourd'hui, on se pose toujours la question de quoi on peut rire, est-ce qu'on peut rire de tout ? Ah, voilà, ça reste de l'humour, et l'humour, le but, c'est de faire rire. Alors des fois, ça fait grincer. C'est pas grave.
Vous êtes resté très proche de votre maman encore aujourd'hui ?
Bah oui, de toute façon, elle me lâche pas. Hein. même si j'essaie de prendre mes distances. Non, et puis quand tu vois ma mère, tu as envie de lui faire plaisir.
Elle est venue vous voir au spectacle là, déjà ?
Ah oui, alors je l'avais
celui-là,
prévenue. Oui, je l'avais prévenue. Je lui ai dit, maman, je dis des choses un peu horribles sur toi. Elle a débarqué dans la loge en me disant, c'est pas horrible, c'est carrément inadmissible. Mais c'est une belle déclaration. Oui, j'avais envie de faire une déclaration à toutes ces femmes. Parce que je trouve qu'en humour, on rigole souvent sur les femmes. Moi, j'avais envie de leur dire qu'on peut rigoler aussi sur les hommes.
On vous voit aussi danser sur scène. Et la danse, j'ai découvert que c'était votre première vocation.
Oui. Oui, j'étais dans les vignes pendant que mes frères faisaient les vendanges. Moi, je faisais des étirements sur les...
Ça contrastait.
Voilà, et ce qui m'a valu le fait que personne n'ait dit que j'étais de la famille. Hein. On disait tout le temps, c'est le stagiaire pour que les autres personnes ne soient pas choquées. Oui, j'ai toujours eu envie de danser depuis que je suis tout petit.
Mais ça, vous en avez fait en professionnel parce que vous aviez intégré une compagnie de hip-hop. Hein,
tout
c'est
à
ça,
fait,
hein.
J'ai eu une compagnie qui s'appelait Exprime. On a fait les championnats du monde. Et,
vous avez gagné les championnats du monde ?
Alors, on n'a pas gagné parce
que... Vous avez
que...
fini combien ?
Mais on était dans les 3 premiers.
Ah ouais ?
Et oui.
Ah non, gros niveau quand même.
Ouais. Donc j'ai dansé pop, boogaloo, smurf et lock pour ceux qui sont spécialistes.
Mais oui, qu'est-ce que
pour
ça
ceux
vous
qui
a...
sont spécialistes.
Oui. Qu'Evan, qu'est-ce que ça vous a apporté la danse dans votre vie au quotidien?
En fait, j'étais très timide et j'arrivais pas à nommer les choses. Je parlais très très peu, tellement peu que les profs avaient dit à ma mère « faudrait peut-être lui faire faire un test de QI parce qu'on est un peu inquiet ». Et en fait, j'avais juste besoin de m'exprimer corporellement. Je passais des heures à travailler mon corps. Bon, aujourd'hui, il n'en reste aucune trace. lui est parti d'ailleurs. Mais oui, c'était vraiment une manière de m'exprimer.
Et la danse, ça vous a peut-être apporté la rigueur. J'aimerais qu'on parle de ça. Parce que les humoristes, souvent, on pense que c'est une nature comique et qu'on est drôle facilement comme ça tout le temps. Vous dites qu'il y a énormément de travail derrière un spectacle. C'est énormément de travail.
Non, c'est énormément
et vous êtes
de travail.
Quelqu'un de très rigoureux, en fait, derrière le côté fantaisiste comme ça.
Oui, je suis beaucoup trop rigoureux même. Non, c'est vraiment au millimètre. Et l'humour ne laisse aucune chance à l'à peu près. Il faut vraiment, vraiment travailler les choses. Et puis aussi savoir ce qu'on a envie de défendre et comment le défendre pour que ce que l'on a envie de dire soit perçu par tout le monde de la même manière.
Regardez-la. Eva Rock brûle littéralement d'envie d'en découdre. C'est l'heure du quiz. Aujourd'hui, les amis, quiz musical. Sur scène, Jari, il vous arrive de pousser des cris étranges d'enthousiasme. Et dans votre dernier spectacle, on l'a dit, vous chantez, vous faites chanter votre public. Du coup, on va vous passer des chansons. Un mot sera masqué par un cri. À vous de retrouver ce mot.
Là, je suis nulle.
Vous êtes nulle, mais vous allez voir, c'est facile.
Ouais.
C'est parti. Jari, on joue avec Daniel Balavoine.
Ah bah, je connais tout de Daniel Balavoine.
La vie ne m'apprend rien.
C'est rapide. Médaille.
Il est plus rapide que son cri, la réponse. Mais oui, bravo Jari, qui marque un point.
Ouais.
Eva Rock, attention.
Il y a personne qui applaudit quand j'ai un point. En fait.
J'applaudis. Il faut venir le vendredi, on est en public. Eva Rock, on joue avec Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Changer la vie.
Croyait inutile la nuit des autres hommes. Il pleurait sur son
saxophone.
Ça va beaucoup me servir comme son. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. En revanche, ça, c'est un son qui isolé.
En tout cas, il y avait du plaisir.
Pour aller tourner. J'ai envie de voir ton saxophone. Voyons voir la réponse.
Écoutons plutôt. Saxophone.
Bonne réponse, Eva Rock. Oh, que ce quiz est dur. Jari, c'est au tour de Julien Clerc. Femme, je vous aime.
Quelquefois, si drôle. Sur un coin.
Ah non, non. Ah bah si, mais moi je le
sur
sais.
Un coin. Alors,
sur un coin.
Sur un coin.
De table.
Ça, la carrière de Julien n'aurait pas été celle qu'elle a été si ça avait été un coin.
Mais
de
non,
table.
Mais je sais pas, j'aime pas perdre. Sur un point coin d'épaule.
Sur un. La réponse.
Sur un coin d'épaule.
Oui. Oh, je l'avais.
J'aurais jamais pu présenter une émission de quiz comme Julien Lepers. Je ne sais pas du tout gérer mon émotion.
Pas du tout. Mais,
et moi, on m'a proposé de présenter des émissions comme ça et je savais que j'allais pleurer.
Ah oui.
Les gens allaient perdre. J'ai toujours dit non.
Mais c'est pas possible, moi non plus. On n'est pas fait pour ça, Jari.
Non, Eva Rock, on est fait pour autre chose.
Un dernier. Oui, mais il est trop tôt pour en parler.
Non, mais pour des émissions.
Ah oui, d'accord, bien sûr. Bien sûr. Eva Rock, un dernier avec France Gall, si maman si.
Tous mes amis sont partis. Mon cœur a déménagé. Mes vacances, c'est toujours.
Pour Paris.
Montpellier.
Non, pour Paris.
C'est
pour
Montpellier.
Paris. C'est Paris.
Dis Montpellier.
Bon,
vous êtes
Montpellier,
sûr, Eva ?
Allez, Montpellier.
Elle a dit Montpellier.
Oh, vous avez perdu, Eva.
Mes vacances, c'est toujours Paris.
Donc, c'est Paris. Et comme ça. Qui
oui.
a gagné?
Bah, c'est Jari.
C'est Jari.
Non, mais je lui laisse le point.
Non, non, non.
Si.
Attendez.
C'est toujours l'invité qui gagne.
Là où
si.
C'est vraiment un quiz pourri, c'est que ce sont toutes les chansons que vous pouvez entendre dans le spectacle de Jari.
C'est, alors, c'est exactement.
Donc,
ça
change souvent.
Ah, ça change souvent.
Oui, il y a quelques chansons qui changent. Enfin, pas de suspense.
Oui.
Vous n'y êtes allé qu'une fois, Eva, quand même. Un athlète comme vous, 76% de muscles, 24% de pâte à cookies, caramel, spéculoos. À la pesée tout à l'heure, il s'est bien inspecté.
T'es affûté, toi, mon salopard. Regarde-moi ça. Ça va gicler dans les bosses.
Ça va gicler dans les bosses. Jérôme Lacroix, justement, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
La bicyclette est à l'honneur. Qui sera le roi au sommet du Grand Colombier ou du col de la Lauze? C'est passionnant tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je ne vous parle pas du col de la Lauze, ascension des Alpes.
Le col
mais
de la
Lauze. Du gain de la Lauze.
Oh oui, François Gallard, anticipez votre excellent jeu de mots.
Parce que oui, finir dernier du Tour de France, eh ben, c'est aussi la classe. Et dans la longue et merveilleuse histoire du Tour, moi je suis tellement passionné. Il y en a eu des bagarres pour finir premier des derniers. Je vous parle d'Arsène Miochaux, premier dernier du premier Tour de France, vous l'avez, 1903, arrivé à Paris avec 60 heures de retard sur le vainqueur. Le record, c'est l'année suivante, 1904, Antoine de Flotière, 101 heures de retard sur le premier. Il a passé à peu près 4 jours de plus que le vainqueur sur le vélo. Alors pourquoi ?
Il y avait des gens qui les attendaient quand même, mais ou pas ?
Oui, qui les attendaient.
Il y avait une voiture balai.
Il y avait déjà la voiture balai.
Oui, évidemment. Alors,
c'était une calèche à balai.
Pourquoi pendant des décennies, c'est ça qui nous intéresse, jusque dans les années 80, les coureurs se sont-ils battus pour finir dernier ? Il y avait un bénéfice financier.
Ah oui, je sais, j'ai deviné. Après, alors, ils font les critériums.
Le dernier, c'est... Le dernier coureur du peloton, il devient populaire. Plus que les autres, il est acclamé, il est encouragé sur le bord des routes. Voilà pourquoi, vous avez raison Mathieu, les semaines qui suivaient le Tour de France, eh ben, les organisateurs des courses plus modestes voulaient absolument avoir la lanterne rouge du Tour au départ de leur événement. Ce coureur qui avait été applaudi pendant potentiellement 3 semaines. Un exemple, l'Algérien Abdelkader Zaaf, lanterne rouge 1951, confie avoir gagné après son fait d'armes 35 000 francs en un an au lieu de 3 600 francs les autres années. D'ailleurs, au passage, je viens d'utiliser le terme de lanterne rouge, inventé lors du Tour de France 1919. Ah. Est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Pas du tout.
Ce terme de lanterne rouge qu'on utilise maintenant pour tous les sports, c'est une référence à l'arrière des trains, parce qu'il y a longtemps, au dernier wagon d'un convoi, eh ben, on accrochait une lanterne rouge.
Oh, on a encore appris quelque chose avec vous, Jérôme. Et donc, certains coureurs rivalisaient d'ingéniosité même pour finir bon dernier.
Tour 1979, le Français Philippe Tenière, il y tient à sa dernière place. Il s'arrête sur le bord de la route.
Mais non.
Un petit pipi, tiens. Sauf que son rival, l'Autrichien Schonbecher, l'a vu. Alors il s'arrête aussi.
Du coup, il dit, allez, grosse commission.
Sauf que lui, bah, peut-être remarqué, parce que l'histoire raconte, c'est vrai, hein, il se cache dans un buisson, cet Autrichien, pour faire croire aux Français qu'il est reparti, mais en fait, il n'est pas reparti pour prendre encore plus de temps. Alors parfois, ça va loin. Les directeurs sportifs des équipes veulent à tout prix décrocher la lanterne. Ils exigent en fait que leurs coureurs traînent des pédales et soient derniers pour que les caméras se braquent sur les maillots bardés de sponsors. Un peu honteux, André Willem, le dernier du Tour 69, a récemment dévoilé son stratagème.
Je me battais pour ça après. Hein. Il n'y avait plus de choix. Si on veut... Des fois, on se cachait dans les étapes. On se cachait. Hein. On se cachait dans les champs de maïs si on pouvait. Hein.
Et que dire de Philippe Gaumont, 1997, à qui l'on demande de jouer carrément la Comédia dell'Arte, là, chaque jour, devant la voiture balai. Je faisais semblant d'être plié en deux sur le vélo.
Je m'en souviens.
Faux problème gastrique. Ouais. Il est même allé.
Il disait qu'il avait la tourista, quoi. Bah, et en fait,
exactement.
C'est faux.
Et bah oui, il est même allé jusqu'à mettre du sel dans son cuissard au niveau des fesses pour simuler une inflammation et justifier le fait d'être à la traîne. Et au départ de l'avant-dernière étape, il déclarait : je suis tranquille, j'ai 15 minutes de retard sur l'avant-dernier. Alors aujourd'hui, il faut dire que ce folklore a disparu. Les coureurs ont de meilleurs salaires. Il n'y a plus d'intérêt financier, ils n'ont plus intérêt à finir dernier. Si c'était celui de pouvoir dire « j'ai fini le tour », ce qui n'est pas rien. Même quand on arrive dernier, ça reste un exploit sportif formidable. Alors il y a peu, on a cru que les organisateurs allaient remettre les lanternes rouges à l'honneur. Le site du Tour a annoncé la création d'un maillot distinctif, gris, orné justement d'une lanterne rouge. Un texte mis en ligne un 1er avril.
Ah,
ah oui.
Ah bah oui.
Donc, c'est dommage.
C'est dommage.
François Gavard, est-ce que dans le monde de la course en mer aussi, il y en a qui se disputent pour être dernier ou non, vraiment pas ?
Je suis pas sûr qu'il y ait des stratagèmes pour être dernier. Ceci dit, c'est vrai.
Sur une course comme le
Vendée Globe, il y a quand même un espèce de d'effervescence. L'accueil des sablés vendéens français sur le Vendée Globe est assez extraordinaire. Il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent accueillir les bateaux. C'est vrai que le dernier du Vendée Globe a souvent un petit peu plus de médias que l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Je pense que les radios, vous, à un moment donné, vous parlez plus trop au milieu de peloton. Et le jour où il y a le dernier qui arrive, vous dites « Ah, bah voilà, le
Vendée
Globe vient de se terminer. »
Et on donne la différence avec le premier, c'est vrai.
Il y a l'exemple de Sébastien Destromo, si je me souviens
exactement,
bien.
Exactement, qui a terminé dernier du
dernier Vendée Globe. Il est
arrivé combien de temps après vous ? Enfin, après le...
J'étais pas, moi, sur le dernier Vendée, mais je sais pas, il y avait une trentaine, un bon mois entre les trois, je pense.
Ah oui. J'imagine, en plus, c'est votre premier drame, on le disait tout à l'heure. Il doit y avoir quand même une pression assez importante sur vos épaules.
Bah oui, c'est-à-dire que c'est surtout parce que c'est une histoire vraie que j'ai envie de défendre et pour moi j'ai pas le droit à l'erreur parce que quand on raconte un sujet aussi grave, faut se documenter, faut tout mettre. On a beaucoup donné, j'ai beaucoup donné de moi dans ce film donc.
Votre sixième film Fahim avec un acteur incroyable, le jeune Assad Ahmed. Alors où vous l'avez trouvé celui-là ? Parce qu'il est incroyable.
On ne l'a pas trouvé, en fait.
Vous ne l'avez pas trouvé ?
Non, c'est-à-dire que mon directeur de casting, Mohamed Belhamar, et ses collaboratrices, pendant 7 mois, ont fait les supermarchés, le quartier de Gare du Nord à Paris, et ils ont fait venir des petits qui me présentaient, mais j'y croyais pas, quoi, ça sonnait faux. Et puis le dernier qui arrive, on était catastrophé, mesure 1m80, donc c'était... voilà. On le ramène jusqu'à la porte, et là, dans la rue, l'attend Assad Ahmed, son cousin. Et je ne sais pas, l'intuition, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose dans son bide qui bouillonnait.
Mais voilà. Ça n'a pas été si facile, vous me disiez tout à l'heure.
Enfin, non, ça a été un mois d'improvisation à le secouer. Et puis, il n'osait pas, surtout. C'est-à-dire qu'avec son éducation, quand je lui disais « Regarde, ce traducteur, c'est un salaud, saute-lui à la gorge, vas-y, t'as le droit, tu lui sautes dessus, fais-le tomber de la chaise », il ne voulait pas. Ensuite, je disais « Elle, ça va être ta maman, vous vous séparez sur la route, prends-la dans tes bras ». Non, il ne voulait pas. Enfin, bon, voilà. C'était que des refus.
Il y a eu des difficultés.
Un mois d'impro, jusqu'au jour où ce qui nous a fait prodigieux, et c'est à l'image et c'est
stupéfiant. C'est très réussi.
Il est incroyable.
C'est votre premier drame, on peut le dire. Il y a une scène qui paraît surréaliste dans ce film. Le père de Fahim est dans le service qui gère les papiers pour l'immigration et le personnel a employé un interprète qui ne retranscrit pas du tout les bonnes questions et les bonnes réponses de part et d'autre. Ça réduit complètement à néant les chances de Fahim et de son père d'avoir des papiers et donc d'éviter l'expulsion. Et quand on a la voix, cette scène, on se dit « Ah non, ça c'est un peu gros, c'est de la fiction, pourquoi le mec mentirait ?» tout ça. Et en fait, on a la résolution dans le film, on comprend pourquoi, c'est quelque chose de vrai, ça c'est factuellement vrai aussi.
Oui,
ça
peut arriver malheureusement, c'est pour les quotas, c'est-à-dire que le traducteur dans cette histoire de Fahim était indien, bengladais, et il s'est dit « bah je vais pas laisser passer des bengladais, comme ça je pourrais aider des cousins éventuellement ». Ça... En fait, il y a un gros problème de dysfonctionnement à la préfecture, en tout cas pendant les premiers rendez-vous, surtout parce que ils n'ont pas de traducteur. Là, j'ai montré une étape suivante où on a un traducteur, où en principe ça devrait mieux se passer. Mais ils n'ont pas de traducteur et donc ils doivent se démerder tout seuls en 21 jours, les pauvres, et ça coûte 70 euros la page de traduction pour des gens à qui on file 7 euros par jour pour survivre.
C'est compliqué. Voilà. J'ai parlé d'un drame, je n'aurais pas dû, non, car c'est une comédie dramatique, nous disait Mathieu Charrier.
Je préfère intervenir depuis le début de cette émission, j'entends drame, c'est pas un drame.
Mathieu, il attend 1h14.
Comédie dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des moments aussi très drôles, notamment Depardieu dans tous ses excès, l'échange entre Depardieu et le gamin, c'est hyper touchant. Et il y a effectivement des moments où on a la petite larme, mais c'est une comédie dramatique, c'est pas plombant.
Tout à coup me vient une réflexion. Qui est que, tout à l'heure, vous nous parliez, Pef, de la difficulté que vous avez eu à monter ce film. Ce n'était pas évident parce que vous êtes un réalisateur connu pour des comédies et là, on part dans quelque chose de plus dramatique. Ce qui fait que le film est réussi, c'est peut-être justement votre sens de la comédie qui permet d'apporter beaucoup de comédie dans un film qui est aussi très émouvant. Et du coup, c'est ça qui fonctionne. C'est la rencontre des deux, en fait. Vous étiez l'homme pour réaliser ce film, peut-être ?
Oui, peut-être, parce que c'est vrai que c'est tellement déchirant ce qui arrive au petit, à son papa et à cette famille, Mohamed, que si j'avais raconté que ça, ça aurait plombé les spectateurs. Or, dans la vie, il y a un moment pour tout. Et c'est vrai qu'ils ont rencontré des gens très amusants et il s'est passé aussi des situations très comiques. Quoi.
Et c'est un film positif, quand même, je trouve. On
très positif.
On en ressort avec l'envie de...
C'est vrai,
c'est
un film sur un des mots de notre chaire de vie. C'est un film sur la fraternité.
Exactement.
Et sur le comportement héroïque de pas mal de Français.
C'est votre première comédie dramatique. Est-ce que c'est un tournant dans votre carrière ? Franchement, on l'a dit déjà, le film est réussi. Il est cautionné par Mathieu Charrier. Mathieu,
validé. Il y a le label sur l'affiche.
Le label Mathieu Charrier sera apposé sur l'affiche, qui certainement va booster
tout de suite,
les entrées.
Que...
Franchement, Pef, une fois qu'on a réussi un film comme ça, on a envie d'aller plus dans la comédie dramatique. On sent que ça vous touche beaucoup, ce genre d'histoire.
Oui, j'ai eu une sensation immense. Enfin, c'était un plaisir incroyable et j'étais curieusement beaucoup plus à l'aise, en fait, dans une histoire aussi déchirante que... Donc je me suis beaucoup remis en question en fait pour la mettre en scène et puis maintenant que c'est fait, je me remets encore en question parce que c'est vrai que je me dis, j'adore la comédie mais bon, j'ai envie de continuer là-dedans. Oui.
Vous dites quelque chose d'étonnant, vous dites en vieillissant, je me demande si ça ne me ferait pas du bien de continuer dans cette voie. La comédie c'est épuisant, sur le plateau c'est beaucoup plus dur. En quoi c'est plus dur la comédie
non,
sur
mais
le plateau ?
Je réfléchis à tout ça parce que bon, j'ai pas l'argent pour me payer un psy donc je réfléchis tout seul. Mais je me dis qu'en fait pendant trop d'années j'ai tout gardé pour moi alors que le métier de cinéaste c'est aussi peut-être de faire péter la bombe qu'on a dans le bide ou dans le cœur quoi. Et je m'en servais pas parce que je suis amoureux de l'absurde et bon voilà donc du coup c'était peut-être moins personnel ce que je faisais dans Les Profs ou dans Gaston Lagaffe et là je peux enfin essayer de résoudre des choses quoi mais dans une histoire quoi donc ça me fait du bien et c'est un petit peu égoïste aussi hein, quelque part.
Oui, enfin là, le film porte un message qui est d'utilité publique quand même. Donc
c'est fraternel, c'est
vrai. On retrouve Isabelle Nanty dans quasiment tous vos films. C'est votre muse, Isabelle Nanty.
Ouais, exactement.
Comment vous l'avez rencontrée ? C'était votre prof ou pas ?
Quand je suis arrivé de Marseille, comme Jean-Paul Rouve qui arrivait de Dunkerque, on s'est retrouvés en stage. On a fait 3 stages et la 3e prof, on est tous tombés amoureux d'elle. Isabelle Nanty, elle avait 26 ans. Elle venait avec des fraises Tagada en cours, des petites couvertures l'hiver. Elle nous couvrait l'hiver quand on travaillait dans le parc de Butte-Chaumont, par exemple, parce qu'on n'avait pas de salle pour répéter. Et puis, elle me cravachait. Hein. J'étais un cancre quand je suis arrivé de Marseille. Et puis, elle a fait de moi un premier de la classe. Elle était très sévère. Et puis, on ne s'est plus jamais quitté.
Mathieu Charrier, vous avez été touché par le film comme j'ai pu l'être.
Oui. Non, mais ce qui est très beau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a cette histoire, dans un débat aujourd'hui sur l'immigration, sur l'accueil des étrangers, etc. Il y a cette histoire de comment, comme par hasard, on accueille les étrangers quand ils ont un don un petit peu particulier. Mmh. Et puis, il y a le côté avec le papa et la complicité, le détachement de la maman qui, elle, reste au pays. Mmh. Comment le père va tout faire pour son fils, pas trop en dire, mais va vraiment aller très très loin. Il y a la prestation de Gérard Depardieu. C'est ce genre de...
Beaucoup d'ingrédients dans ce film qui font que ça
marche. En fait,
c'est
ce genre de film que vous allez voir en ne sachant pas trop à quoi vous attendre. Moi, j'ai découvert au Festival d'Angoulême fin août, je ne savais pas trop ce que j'allais voir. On nous dit à Gérard Depardieu, bon allez, on va découvrir le film. Et vraiment, on en ressort en se disant, je viens de voir une jolie histoire au sens très large.
Pef, c'est indéniable, vous avez fait, on peut dire, un joli brin de carrière. Mais attention, tout peut s'arrêter maintenant. Avec le quiz contre la rock. En hommage à votre film, l'histoire évidemment d'un petit garçon surdoué aux échecs, on fait un quiz sur les jeux de société. Chaque bonne réponse vaut un point. C'est parti. Pierre-François, le mois dernier vient de sortir Madame Monopoly, une version du Monopoly où les femmes gagnent plus que les hommes. Vrai ou faux ?
C'est faux.
C'est vrai ! Et oui, nous vivons dans ce monde-là, c'est vrai. Les femmes reçoivent plus d'argent au début du jeu et à chaque fois qu'elles passent par la case départ, et la mascotte du petit papy pervers à moustache est remplacée par une jeune femme dynamique. Eva Rock, dans les jeux de société, on utilise un dé à 6 faces, mais pour certains, on doit utiliser un dé à 100 faces. Vrai ou faux ?
À 100 faces ?
Comme je vous le dis. Sans face.
Ouais, pourquoi pas. Vrai.
Non, c'est pas une réponse. Je ne peux pas valider. Vous
oui,
me dites
je dis vrai.
Ou
vrai.
Vous dites vrai.
Vrai.
Vous avez raison. J'essaie de la faire perdre, mais vrai. C'est un dé qui sert à donner des pourcentages très utiles dans les jeux de rôle. Un dé à 100 faces s'appelle un zokiedron. Voilà une info que vous aurez oubliée à la fin de ce quiz.
J'ai cru un dé sans fesses, alors je me disais.
C'est un nouveau attention. Jeu organisé.
Attention les amis, une question, 3 propositions, vous répondez ensemble. En 2015, le champion du monde de Scrabble francophone avait une particularité. Laquelle ? 1. Il ne parlait pas français. 2. Il était en prison durant la compétition. Ou 3. Il était nudiste, du coup il a passé le concours de chez lui.
2. Il était en prison.
Prison.
Et je dirais qu'il n'était pas français.
Non, c'est pas ça. C'était, il ne parlait pas français.
Ah, il ne parlait pas français.
Parlait pas
oui,
français.
Ne
c'est le champion
français.
Du monde de Scrabble, Eva, on rappelle. Hein, bah, de Scrabble en français. Réfléchissez à votre réponse.
Il était nu.
Il était nu, c'était un nudiste. Eh bien, vous avez tort tous les deux. J'ai aiguillé Eva vers la mauvaise réponse. Il ne parlait pas français, alors tenez-vous bien parce que ça, c'est incroyable. Nigel Richards, néo-zélandais, a appris par cœur les 380 000 mots du dictionnaire officiel du Scrabble.
Non.
Mais non.
Il ne parle pas un mot de français. À peine s'il sait dire bonjour, je pense. Depuis, il a gagné 4 fois la compétition en français sans rien comprendre aux mots qu'il place, comme anatrope. Moi, je ne connais pas non plus anatrope. Voilà. Vous savez ce que c'est, anatrope ?
Non.
En anatomie végétale, c'est l'ovule quand le hile et le micropyle sont côte à côte, alors que la chalaze est à l'autre extrémité. Et ça, c'est un mot qu'il a placé en finale.
Oui. Je croyais que c'était quand on avait trope d'anus.
Décidément, les Robins des Bois ne sont pas très loin quand même. Hein. Ça fait plaisir.
Vous la couperez au montage.
Ah, évidemment, évidemment.
Bien sûr.
Ici, vous avez remarqué que c'était l'émission où on coupait ce genre de choses. Eva Rock, qui est le plus âgé ? Le jeu des 1000 bornes ou Nadine Morano ?
Ah, le jeu des 1000 bornes.
Oui, il a 65 ans cette année. Le jeu a été créé par Edmond Dujardin, éditeur de matériel pour auto-école à Arcachon. Nadine Morano, elle a 55 ans. On l'embrasse, évidemment. Enfin,
moi, je l'embrasse.
Cette question-là vaut 3 points. Attention, accrochez-vous. On reparle du Monopoly. Voici 3 versions du Monopoly, laquelle n'existe pas. 1. Le Monopoly du Périgord. 2. Le Monopoly ABBA, le fameux groupe suédois. Ou 3. Le Monopoly des maladies sexuellement transmissibles.
Bah, le 3.
Eva ?
Non, celui de ABBA. Pourquoi il y aurait un Monopoly ABBA ?
Ah, c'est Pef, c'est pas vous. Et donc, Pef, bonne réponse.
Il est tellement content de la faire perdre.
Je suis tellement content. Mais... Non, mais là, il n'était pas prévu que vous répondiez. C'est moi qui vous ai posé la question.
Okay.
C'est Pef qui remporte le quiz. Mais oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a je les ai entendus, ils m'ont dit la dernière question vaut 3 points. Ils ont trafiqué les votes en régie pour que l'invité gagne. Parce que l'invité doit toujours gagner. Il est le scientifique d'Europe 1. Il est cul et chemise avec les derniers Nobel de physique. Il a toujours refusé de produire ses diplômes, mais la rigueur de ses raisonnements est clairement le gage d'études de haut niveau.
Quand on se prend une boule de neige dans la figure, c'est pas la même chose que quand on se prend une boule de pétanque.
Waouh ! Effectivement, il y a au moins un bac S là.
C'est pas faux, c'est pas faux.
C'est pas faux. Alain Sirou, aujourd'hui, vous êtes en colère.
Oui, bah, depuis des années d'ailleurs, à cause de ces Nobel qui finalement sont tragiques pour notre société où de jeunes filles veulent faire de la science, sont émerveillées par ce sujet et ne voient jamais de récompense en conséquence. Et je vais vous donner un exemple radiophonique. Bon, alors il y en a beaucoup, hein, parce que depuis Marie Curie, les jeunes scientifiques ou les scientifiques qui ont eu une Nobel femme se comptent sur les doigts de la main. Je vais vous donner l'exemple de Jocelyne Bell. Jocelyne Bell, c'était une étudiante en 1967, Université de Cambridge en Angleterre, et c'était un peu la préhistoire de l'observation du ciel avec des outils modernes. Elle a une idée extraordinaire, qui est géniale, il faudrait un jour sans doute en faire un film. Elle dispose sur plusieurs hectares de terrain des milliers de poteaux en bois qu'elle raccorde avec des fils de fer, tout simple, pour écouter le ciel en ondes radioélectriques. Et puis, c'est vraiment le tout début, et elle entend ça. Et alors, elle trouve ce signal incroyable. Elle se demande d'où ça vient.
C'est les extraterrestres, Alain ?
Figurez-vous, Mathieu, j'ai pensé à vous.
Ah oui.
Elle a appelé ce signal Little Green Man.
Ah ben voilà.
Petit homme vert. Et puis, en écoutant le ciel, on a aussi entendu ça après. Plus rapide.
Oui.
Et puis, au fur et à mesure des observations, on a entendu ça.
Et une tondeuse à gazon.
Jocelyne Bell venait de découvrir ce qu'on appelle les pulsars. Pulsing stars, étoiles pulsantes, qui sont un nouveau type d'astres à l'époque, les années 70, qui correspondent en fait à des cœurs d'étoiles qui ont explosé, ce qu'on appelle des étoiles à neutrons. Une matière extrêmement condensée, c'est comme si vous mettiez toute l'humanité dans un dé à coudre. Hein, vous voyez, c'est incroyable. Ce sont les précurseurs des trous noirs en quelque sorte. Et elle découvre ça observationnellement. Elle l'entend. C'est ce qu'on a entendu. C'est exactement ce qu'on a entendu. Et ces pulsars sont des éléments de la vie des étoiles qui permettent de raconter ça. Et son directeur de thèse dit « Formidable, génial » et dépose ça au Nobel. Il a le Nobel.
Non.
C'est lui qui reçoit
mais
le Nobel.
Mais c'est dégueulasse.
Nobel de physique par son directeur de thèse. Et elle est tellement dans un autre monde qu'elle dit « Ah oui, mais c'est normal, j'étais étudiante. C'est normal, c'est lui le chef. » Et puis,
j'ai toujours rendu compte. On peut lui donner un Nobel a posteriori.
Donc, on lui a donné un Nobel a posteriori, mais dans l'esprit, nous. Jamais le Nobel.
Ah, dans l'esprit, jamais.
Non, bien sûr. Cet exemple pose la question, finalement, du statut des femmes en science.
Bien
parce
sûr,
qu'on va les trouver
en science.
Et pas on va les trouver collaboratrices, femmes, on va les trouver secrétaires, enfin plein de choses, calculatrices. On parle beaucoup de Katherine Johnson, par exemple. Vous avez vu le film peut-être Les Femmes de l'Ombre,
oui.
Qui raconte l'histoire des calculatrices noires dans les années 60 qui vont aider à faire justement les équations qui permettront à l'homme d'aller sur la Lune et qu'on récompensera pratiquement 90 ans plus tard. Elle est toujours vivante, elle a 102 ans, Katherine Johnson. Aujourd'hui, elle est reconnue, mais il a fallu beaucoup de temps. Donc,
femme et noire,
c'était compliqué dans cette
année.
La question de fond, c'est comment crever ce plafond de verre. Alors, il est fondamentalement culturel, parce que c'est vrai que les parents offrent à Noël une boîte de petits chimistes aux garçons et puis une poupée
c'est en train de changer ça, là.
Barbie, peut-être, je l'espère en tout cas.
J'espère.
Et puis surtout, l'idée que finalement, une jeune femme, elle a un cerveau comme un homme, et que la science étant par essence l'imagination suprême débridée, le chemin de traverse, eh bien finalement, tout le monde peut le prendre.
Je veux pas me tromper, mais je pense qu'en littérature, ou a priori, on pourrait avoir égalité entre les hommes et les femmes en nombre de Nobel. Je pense que les hommes sont supérieurs encore aux femmes.
Mais bien sûr, mais c'est pareil. Mais en littérature, c'est pareil. C'est comme en peinture, c'est comme dans tout.
En musique.
C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans d'histoire qui a fait que les femmes ont été niées, elles ont été ignorées.
Même dans des disciplines,
par le pouvoir masculin.
Même dans des disciplines qu'on associe souvent, genre historiquement, aux femmes, genre la cuisine, par exemple, c'est souvent les chefs étoilés, il y a plus d'hommes. Tout ce qui est l'excellence, culturellement, on l'a voué aux hommes.
C'est pour ça que c'est important que les hommes se mêlent de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, non, le problème, justement, de cette parité homme-femme, c'est pas seulement une question de femmes, c'est aussi aux hommes
de
se battre pour ça et de faire en sorte que les choses changent.
On dit que c'est après avoir entendu la maquette de son album Venin qu'il avait enregistré au tournant des années 90 que, jaloux, Kurt Cobain aurait commencé à sombrer.
Petit terrien, tout allait bien, il ne nous manquait rien.
Oui, non, non, lui, de cette époque rebelle, Axel de Tarlé, notre expert éco, a conservé quelques réflexes.
I want a new drug.
Oui, super, une aisance en anglais. Et surtout une sympathie pour la gauche, assez rare chez un expert éco. Or justement, Axel, la gauche renaît de ses cendres, là où on l'attendait le moins finalement.
Et non, bon journaliste, je ne fais que décrire des mouvements forts qui sont à l'œuvre sur notre
oui,
planète.
Mais et... je sens une pointe d'excitation chez vous.
Non, alors effectivement, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il y a General Motors. Alors, vous savez, en plus, c'est une entreprise symbole, là, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Bah, General Motors fait sa plus grande grève en ce moment. Ils sont en grève depuis près de un mois, les salariés, près de 50 000 salariés aux États-Unis. Donc c'est la plus grande grève de General Motors depuis les années 70. Et donc c'est intéressant parce qu'ils se battent pour des augmentations de salaire. Mais jusqu'à présent, ils ne se battaient pas pour des augmentations de salaire. Et là, que constatent-ils les salariés? Ils constatent qu'il n'y a pas de chômage. Donc vous savez, quand il n'y a pas de chômage, le salarié est en pouvoir, a un pouvoir. Et il y a 8 milliards de profits pour General Motors. Donc ils disent « et nous, et nous ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce message est aussi relayé par la classe politique. Vous savez que face à la radicalité de Trump, dans le camp démocrate, on n'a plus du tout des Obama ou des Bill Clinton qui étaient très business-friendly. Ouais. Maintenant, la leader des démocrates, celle qui est en tête, hein, qui affrontera probablement Donald Trump, c'est Elizabeth Warren, qui a un programme radical. Trois, je vous donne trois de ses mesures phares pour se faire élire, pour se faire élire à la Maison-Blanche. Interdiction du pétrole et du gaz de schiste, création d'un impôt sur la fortune. On pensait que voilà, une création d'un ISF. D'ailleurs, c'est un Français qui est son chef économiste et c'est lui qui a soufflé l'idée de faire un ISF. Et troisième idée, démantèlement des GAFA, des Google, Facebook. D'ailleurs, le
démantèlement.
Facebook. Oui, oui, elle trouve qu'ils ont trop de pouvoir. Donc, vous voyez, c'est un vrai tournant.
Mais le mot socialiste n'est plus, parce que longtemps aux États-Unis, le mot socialiste, c'était pareil. Vraiment
Donald
c'était
Trump,
presque communiste. En fait,
je crois qu'il la traite de communiste bolchevique.
Oui,
hein.
Oui, voilà. Évidemment.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le même phénomène en Grande-Bretagne, où face aux excentricités de Boris Johnson, vous avez, même dans les milieux patronaux, certains qui se disent « et si on allait vers les travaillistes ?» Sauf que les travaillistes, c'est plus du tout l'époque Tony Blair. C'est Jeremy Corbyn qui, alors lui, il n'a qu'une idée en tête, c'est tout nationaliser. Donc il veut nationaliser les services publics, il dit « ça a été une catastrophe là, d'avoir confié l'eau et le rail au privé ». Et il veut même faire des nationalisations citoyennes. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, c'est-à-dire qu'il veut de force, d'autorité, donner 10%, vous êtes dans une entreprise, il veut donner 10% des actions aux employés, gratuitement. D'ailleurs, les actionnaires historiques ne sont pas loin de dire « mais attendez, c'est une spoliation ». Donc oui, ce phénomène est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que les travaillistes comme les démocrates, 40 ans après la révolution libérale thatchérienne, on a un mouvement de balancier dans l'autre sens avec des leaders de gauche, entre guillemets, qui ont des programmes bien plus radicaux que par le passé.
Et est-ce que ce mouvement de balancier pourrait nous toucher, nous, en Europe et en France surtout?
Alors la France est toujours une exception. Vous savez que nous, pendant la révolution libérale de 80, nous on avait Mitterrand avec des ministres communistes qui faisaient le programme commun et qui nationalisaient les banques. Et bien là, de la même façon, au moment où on a le mouvement de balancier qui va dans l'autre sens, on a un Emmanuel Macron qui supprime l'ISF et qui est plutôt en train de libéraliser le travail, le marché du travail. Donc non, vous voyez, c'est le charme de la France, c'est qu'on est toujours à contre-temps.
Merci beaucoup Axel de Tarlé pour ce virage à gauche que vous prenez.
Non, je décris le monde qui bouge.
Un homme au physique, c'est vrai, avantageux, qui hier a semé le trouble dans le cœur de notre invité, l'humoriste Jarry, à qui j'avais montré sa photo.
C'est un chroniqueur quoi, lui ?
Technologie.
Il est gay ?
Non, officiellement.
Notez à Nice comme, afin d'entretenir la bonne humeur de l'invité, Eva est capable de dire n'importe quoi, quitte à lancer des rumeurs et à inquiéter votre épouse.
C'est moche ce que vous faites.
Non, mais j'en ai problème entre le sympathique gay.
Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Mon cher Anissa Mbida, c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez aujourd'hui.
Oui, parce que si je vous demande combien de temps mettrait un pack de polystyrène à se dégrader dans la nature, vous allez me dire combien?
J'aurais dit 500 ans.
Ouais, moi, je
oui,
pensais
on
aussi
peut penser que ça va être
c'est éternel,
long.
Hein, que c'est 500, 1000 ans, etc. Et bien, finalement, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on n'avait jamais pu réussir à vérifier puisque les premiers plastiques datent des années 20 et que le polystyrène date des années 70. Donc, personne n'a pu vérifier si ça mettait 400 ou 500 ans. Et bien, des chercheurs de l'Institut Océanographie Woods Hole ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont testé ça dans des conditions de vieillissement un peu rapides et puis se sont rendus compte qu'en 60, 80, 90 ans, les boîtes de polystyrène pouvaient être complètement dégradées en CO2, ça avait complètement dissous dans l'eau, alors qu'on imaginait que ce produit était éternel. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que je vous vois venir avec les
histoires. Ne me prêtez pas des intentions.
Mais non, parce qu'on
vous...
va dire que c'est une étude qui est sponsorisée par
les
spécialistes. Non, pas du tout. C'est une des plus grosses ONG américaines privées qui travaille vraiment sur la recherche dans l'océan. Donc, on ne peut pas les taxer de quoi que ce soit. Donc, c'est extrêmement sérieux comme étude, mais simplement, on n'avait jamais vérifié. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, la plupart des études sur la dégradation du plastique se basaient simplement sur les microbes qu'il y a dans l'atmosphère, qui avaient du mal à attaquer les polymères en plastique. Sauf qu'eux ont regardé aussi l'action du soleil. Il se trouve que les UV du soleil, la lumière du soleil, dégrade également le plastique. D'ailleurs, on s'en rend compte un peu tous, hein, avec les transats en plastique qu'on laisse dans le jardin ou les jouets des gamins qui traînent. On se rend compte qu'à bout de quelques semaines, mois, etc., ils ont changé de couleur. Leur texture n'est plus du tout la même. C'est cette action qu'ils ont observée également sur les plastiques et qui fait qu'ils se dégradent beaucoup plus rapidement.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'est vraiment trompé sur le plastique et que c'est une matière qui n'est pas pire qu'une autre finalement ?
Alors, on ne va pas aller jusque-là. J'imagine que cette étude va être détournée dans tous les sens, mais ce que ça signifie plutôt selon moi, c'est que si on commence à utiliser des produits qui sont biodégradables et qu'on arrête d'utiliser le plastique actuel, on n'est pas obligé d'attendre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans avant qu'il n'y ait plus de plastique sur Terre. Ça pourrait se faire en 100 ou 200 ans. Donc moi, je trouve ça extrêmement positif. C'est-à-dire que on fait énormément d'efforts dès aujourd'hui pour avoir des produits qui sont renouvelables, des produits biodégradables, on va dire, on peut avoir une planète complètement nettoyée de ce plastique dans quelques années. Et puis les chercheurs précisent quelque chose de très important, c'est que même si les UV dégradent le plastique en CO2, on ne sait pas ce que les autres éléments du plastique deviennent dans la nature.
Ah, c'est ça,
donc on reste quand même extrêmement prudent, on continue à se débarrasser de ce plastique et à passer par des choses beaucoup plus biodégradables, mais on peut nettoyer notre planète rapidement et ça c'est une bonne chose.
Claire Chazal, vous faites attention au plastique, vous utilisez encore des pailles en plastique, Claire Chazal, dans vos mojitos, dites-nous la vérité. Voici Dilys. Dilys ! Voici Dilys in extremis ! Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour tout le monde.
Bonjour Olivier. Bonsoir.
Qu'est-ce que vous nous concoctez aujourd'hui ? Ça m'a l'air bizarre sur le papier.
Ça peut paraître un peu bizarre, je vous ai fait une association chromatique de produits de saison et gustativement intéressant par-dessus le marché.
Vendez-nous votre truc.
Le marché, on va justement en parler. Du marché, vous allez rapporter un beau céleri, vous savez, un céleri boule. Vous allez rapporter une poire et vous allez rapporter quelques amandes. Tout est blanc, tout est de saison. L'idée, c'est de faire une petite mousseline de céleri. C'est très facile. Quand vous êtes sur votre bateau, vous allumez votre petit réchaud, un petit peu de lait dans la casserole. Donc, vous faites. Alors, le lait, c'est vrai qu'avec les, il faut une mer plate. Donc, vous faites bouillir du lait et vous faites cuire le céleri dans le lait. Ça, c'est très intéressant parce que ça va l'adoucir un peu. Et ensuite, on va mixer tout ça en gardant évidemment le lait de cuisson, en rajoutant un peu de beurre pour vous donner des forces et pour donner un peu plus d'onctuosité encore. Donc ça, c'est votre mousseline de céleri, sel, poivre. Après, des petits dés de poire, tout simplement, que vous allez rajouter dedans. Ça va porter du moelleux et puis le sucré salé et la poire, c'est vraiment très intéressant. Et on termine par quelques amandes effilées pour donner le croquant. Vous avez un plat hyper simple qui, franchement, je pense, en jette un peu et surtout, très très bon marché, une fois encore. Mission accomplie, n'est-ce pas ?
Mission accomplie, ça coûte combien à peu près ?
Non, mais il n'y en a pour rien du tout. Une boule de céleri, ça coûte autour d'1,50€. Une poire, même pas 1€. Enfin, il n'y en a pour rien, là.
Alors, François Gabart va-t-il préparer cette mousseline de céleri-poire sur son
bateau ?
Ça, je ne sais pas.
Je voudrais bien les photos dans ce cas-là.
Mais, en tout cas, dans la famille Gabart, il y a deux passions, la voile et la gastronomie. Il y a dans votre famille un rituel, j'ai lu. Chez nous, la tradition est bien ancrée. Chaque nouvel arrivant dans la maisonnée Gabart est accueilli à l'identique. Le bambin se doit de téter 3 gouttes d'un bon Bordeaux rouge. Puis on lui frotte les gencives avec une gousse d'ail. Un tel baptême en fera forcément un bon gascon. C'est ça votre secret ?
Ouais, mais c'est un peu les traditions du Sud-Ouest. Ouais, c'est vrai.
Vous l'avez fait récemment, je crois que vous êtes papa à nouveau.
Ouais, papa à nouveau, pas encore. Il a quelques semaines, là, petit dernier,
donc on va
attendre un petit peu encore.
Il faut qu'il ait les dents déjà.
Ah, oui. C'est sûr pour l'ail. Mais non, pas forcément, pour avoir un petit peu.
Juste la mâchoire.
On va pas lui donner une côte de bœuf, Olivier. Ça, c'est dans votre famille. C'est notre tradition, une tradition belge. Et on voit le résultat sur vous aujourd'hui. Qui est Jarry pour vous ? Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté de manière flagorneuse pour l'inviter. Non, voici un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a rien censuré.
Jarry, un humoriste ?
Il passe d'un vendredi, tout est permis avec Arthur !
Oui, je sais,
mais je l'aime trop !
Oh, je l'aime trop. Il a une petite touffe de cheveux, mais un peu pas trop garnie.
Il a des lunettes, il est très efféminé, il est très drôle.
Il s'assume. C'est parfait, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est parfait.
Coucou Jarry.
On en veut plus comme lui.
Ça donne un très bon exemple pour tous ceux qui n'osent pas se dévoiler à leurs parents, à leurs amis, à leur entourage. C'est un très bon exemple.
Allô, Jarry ?
Il ressemble un petit peu à un petit poulet qui viendrait naître un peu.
Jarry ! Oh,
j'adore Jarry ! J'aime trop Jarry ! Ah, vous m'enregistrez là ?
À chaque fois que je le vois, je rigole.
Jarry, je te fais un gros bisou de la Réunion. Voilà.
Alors, Jarry, c'est marrant, vous avez rigolé à un moment de ce micro-trottoir où moi je pensais que c'était quelque chose d'intéressant qui était dit sur vous. La jeune femme disait vous êtes plus qu'un artiste, vous êtes un exemple. Ça, ça vous a fait marrer, vous n'avez pas envie d'être un exemple,
mais
vous en foutez.
Pas du tout, mais non, on est l'exemple mais déjà.
Un exemple de liberté, de que vous êtes et d'assumer.
Oui, enfin, j'aime pas ce mot exemple parce que moi-même, quand je me regarde, je me dis oulala, c'est compliqué quand même, c'est un dessin, mais il n'est pas fini. Oui, que je donne envie, mais je crois surtout qu'il faut dire aux gens d'être libre plus que jamais et d'être profondément ce qu'ils sont et de ne pas être dans le mensonge et l'injustice. Quoi.
Alors, Jarry, vous avez mis du temps, visiblement, à être libre. Vous avez grandi à Rabelais-sur-Layon, un village de 600 habitants à côté d'Angers. Je crois que vous avez 22 ans quand vous débarquez à Paris et dans une interview, vous avez confié que ça a été la pire année de votre vie.
Ah pourquoi? Oui, bah, parce que j'habitais un tout petit appartement de 9 mètres carrés. Et moi, je disais bonjour à tout le monde. Et chaque jour, personne ne me répondait. Et vraiment, c'était très dur pour moi.
Dans le métro, bonjour.
Dans le métro, parce que je venais de là et c'était comme ça. Quand tu viens d'un petit village et que tu as l'habitude d'être dans un rapport familier avec les gens. Et puis parce que aussi, je passais des castings à l'époque et comme les gens me prenaient vraiment pour un débile, j'avais l'impression d'être Mimi Sicu dans Un Indien dans la ville. Quoi.
Qu'est-ce qui a
habillé.
Mais habillé. Vous nous rassurez un petit peu. Mais peut-être ça aurait mieux marché en Mimi Sicu.
J'aurais pas fait la même carrière.
Une autre carrière que vous attendez dans ce bois dont on parlait.
Exactement.
Tout à l'heure, cette forêt primaire qui est le bois de Boulogne. Finalement, c'est Didier Bourdon qui vous découvre.
Oui, j'ai la chance de passer un casting pour son film Bambou. J'ai, je crois, une vingtaine de jours de tournage et tous les jours, il me dit Jarry, il faut que tu fasses de l'humour. T'as vraiment
quelque
chose.
Parce que vous faisiez marrer tout le monde.
Parce que je faisais marrer tout le monde, pareil, sans le vouloir. Et j'ai écrit un sketch grâce à lui et puis ça a été la liberté.
Vous arrivez sur scène en chantant, vous débrouillez d'ailleurs très bien. Eva, vous pouvez dire que Jarry chante.
J'étais bluffée. Non, mais j'étais franchement bluffée par le niveau de chant.
Bah ouais, mais
j'ai
Maria
même cru
Carré.
Que c'était un playback au début.
C'est vrai ?
Ah bah oui.
Non, mais il y a du Maria Carré en moi, il y a des grandes chanteuses quoi, qui sont venues.
Alors justement, on recevait la semaine dernière Claudia Tagbo ici pour Ghost, le musical. Ça vous dirait d'intégrer une troupe de comédie musicale, vu que vous avez tous les talents, vous dansez, vous chantez ?
Je sais pas.
Ça fait pas partie de vos rêves de gosse ?
Bah non, pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non, mais j'aime pas trop être déguisée en costume et tout. Ah. Parce qu'en plus on va me donner un rôle super chelou, tu vois, je vais être le comptable gay qui se fait violer par le loup au bout de 10 minutes de spectacle.
Ça, c'est un bon pitch ça, hein. Je vais peut-être l'écrire, tiens ça. Vous avez dit aussi, je rêvais de devenir comédien dramatique, de jouer des grands classiques.
Mais oui.
Mais au lieu de faire pleurer, je faisais rire.
Mais oui, mais c'est horrible. Ben je jouais le mythe de Persée sur l'histoire d'Athéna qui a eu Persée, etc. Du coup, mon père meurt à la fin dans mes bras et là toute la salle mais hurlait de rire. Et le metteur en scène est venu me voir en me disant bon Jarry, c'est censé faire pleurer. Je fais mais moi je suis premier degré vraiment. Je crois vraiment qu'on père est mort et voilà. Je me suis fait virer.
Et du coup, ça vous a ouvert les portes de l'humour.
Bah oui,
vous
c'est horrible. Mais même quand j'enseignais, les élèves ils rigolaient, ils me disaient tout le temps, mais monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je disais, mais si, je suis sérieux.
Je suis hyper sérieux. Jarry, ce n'est pas la notoriété qui vous intéressait. Pour vous, le théâtre, c'était un moyen de vous exprimer déjà dans un premier temps, oui. De vous découvrir vous-même en fait.
Oui, complètement. Oui, parce que j'ai découvert des choses de moi que je ne connaissais pas. Et parce que c'est un espace tellement libre, c'est tellement bon d'être libre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Avant, ça vous manquait. C'était, il n'y a que via la scène. Comment, si, admettons,
parce que partout où on va, on a un responsable, un patron, ouais. Ou des gens qui vous disent ça, c'est pas possible.
Bah, il y a peut-être un metteur en scène qui peut vous dire ça, c'est pas
non,
possible.
Non, bah, c'est moi-même.
Vous êtes malin. Hein.
J'en ai eu un, mais il a disparu d'ailleurs. On ne sait pas où il est. Non, mais oui, cette liberté, elle est importante. Plus que jamais.
On a envie de profiter de ce moment privilégié avec vous pour apprendre à mieux vous connaître. Par exemple, dans le spectacle, vous parlez de vos enfants. Vous dites « Je suis vraiment le père de ces enfants, de manière génétique, c'est important pour moi. Adopter en France pour un homme, c'est très compliqué, voire impossible. Selon vous, le système français de ce côté-là a encore beaucoup de retard. »
C'est tellement honteux. J'ai tellement honte de la France par rapport à l'adoption pour un couple homosexuel, puisqu'on vous fait très clairement comprendre dans votre démarche que vous aurez un enfant dit à particularité. Et il y a eu cette affaire qui est sortie il y a quelques mois, souvenez-vous, où on avait donné un enfant atteint du sida à un couple homosexuel. En lui mettant, vous connaissez le problème. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est évidemment intolérable, où on vous propose d'être famille d'accueil, mais en vous disant qu'on peut vous retirer l'enfant à n'importe quel moment. Comment, en 2019, dans un pays droit, égalité des droits de l'homme, on ne prend pas en compte ça? Je sais pas, en fait.
Vous avez eu recours à la GPA à l'étranger, aux États-Unis, on peut le dire, mais vous ne militez pas pour la GPA particulièrement. Vous aimeriez vraiment que l'adoption soit ouverte aux couples homosexuels.
Et parce que moi, j'ai fait une GPA parce que l'adoption, ça faisait déjà plus de 4 ans que j'étais en démarche et qu'on me disait d'attendre encore entre 7 et 9 ans. Donc je me suis dit, à un moment donné, je vais mourir. Donc ce serait bien quand même que je puisse profiter quelques années de ces enfants. Donc oui, puis la GPA, je suis pour une GPA qui soit suivie. Et aux États-Unis, c'est un long processus. Vous passez devant un juge, il y a une enquête sociale qui est menée. Enfin voilà, je ne suis pas pour la GPA en Inde, en Roumanie, dans tous ces pays où on ne sait pas trop ce qui s'y passe.
Bien sûr. Sur les levées de boucliers qu'on a pu voir encore récemment, vous dites, plutôt que de perdre toute cette énergie à manifester contre l'amour qu'on peut donner à un enfant, trouvez des projets qui fédèrent les gens. Ne perdez pas votre temps à manifester avec vos drapeaux ridicules et vos couleurs archaïques bleu et rose. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant dont le père est décédé ? Alors tu n'as pas de papa ? Qu'est-ce qu'on dit aux familles monoparentales ? À un moment donné, c'est le bien-être de l'enfant qui compte.
Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est à quel point les hommes politiques sont complètement en dehors des réalités. C'est quand même préoccupant. Je veux dire, on a une responsabilité, comme moi j'ai la responsabilité de continuer à faire mes courses dans les grandes surfaces et de rencontrer les gens de la vraie vie. Et ces gens-là, je ne sais pas où ils vivent, mais c'est très préoccupant. Les gars, on se réveille, on se met un petit coup de pied au cucu et puis on vient parler aux Français.
Quand la direction m'a dit « Mathieu, dans ton équipe, essaye de t'entourer de gens funky pour nous reconnecter avec les jeunes », j'ai tout de suite pensé à celle qui avait assuré aux platines de mon anniversaire.
Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire.
Ah, quelle soirée de gueudin on avait passé. Grâce à vous, je n'oublierai jamais mes 63 ans. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes spécialiste environnement d'Europe 1 et aujourd'hui, Anne Le Gall, vous avez choisi de nous parler des champs marins.
Voilà. Ah bah, et bien, puisque nous recevons un immense navigateur.
Je m'y connais peu en champ de baleine, mais ça...
C'est le petit effet pour un immense navigateur qui vit dans le Finistère, là où j'ai grandi. Voilà, j'ai choisi de vous parler de champs de marins, effectivement. Mais en vrai, pas cela. Je vais vous parler d'un autre champ marin, c'est celui-ci.
Ça, c'est quand ils ont bu un peu trop...
Ça, c'est le chant d'une baleine. On connaissait déjà des choses fascinantes sur
ça,
le champ.
Ça, c'est Chewbacca dans l'Empire contre-attaque. On ne me la fait pas.
Non, non, c'est une vraie baleine. Alors, ça fait des années qu'on étudie, hein, depuis les années 70, on étudie vraiment les motifs sonores de ces chants et on en apprend toujours de plus en plus. On savait déjà que si les baleines chantent, eh bien, c'est pour s'accoupler, pour s'orienter, pour communiquer, pour dire aux autres baleines « Venez par ici, il y a un banc de poissons », par exemple. On savait aussi qu'une baleine boréale est capable de chanter 184 mélodies différentes. On savait que les baleines ont aussi des langues régionales.
Mais comment
entre
ça
les baleines qui vivent près des côtes australiennes et près des côtes argentines, eh bien, elles n'ont pas le même langage. Ce n'est pas tout à fait le même chant.
Mais elles se comprennent ?
Elles se comprennent. Et non seulement elles se comprennent, mais en plus elles apprennent le dialecte des autres baleines. Si bien qu'on peut aujourd'hui retracer l'itinéraire d'une baleine grâce à leur accent qu'elle aurait comme ça attrapé.
C'est invraisemblable. J'avais déjà lu quelque chose dans le Wapiti, qui est le magazine pour enfants animaux de mon fils. Et c'était, oui, j'avais lu que les dauphins avaient un langage qui s'appelait par leur prénom, qu'ils avaient un prénom et un nom, enfin un distinctif de famille quand ils s'adressaient à un dauphin,
possible.
À un autre dauphin.
Absolument. Donc ça, c'est une étude qui date de 2011. Et aujourd'hui, on a appris autre chose. C'est qu'on a appris que les chants des baleines se modifiaient. Les chercheurs ont remarqué, par exemple, que parfois, les baleines femelles baissaient le ton. Alors pourquoi ? On l'a appris la semaine dernière. Il y a une étude qui vient de paraître. Et en fait, on découvre que les baleines femelles savent chuchoter. Elles baissent le ton pour protéger leurs petits. Parce qu'en fait, il ne faut pas se faire remarquer par les orques et les requins. Et donc, jusqu'à l'âge de 3 mois pour un baleineau, sa mère baisse le chant pour n'être perceptible qu'à 100 mètres à la ronde et non plus 1 km comme habituellement. Ensuite, on a aussi constaté que depuis 10 ans, les baleines chantent plus grave. Elles ont un chant légèrement plus grave. Et là encore, on a des explications depuis très peu de temps. Il y a deux choses qui se combinent. Alors, l'explication la moins sympathique, c'est l'acidification des océans. Les océans s'acidifient en absorbant le carbone qu'on émet de plus en plus.
Oui.
Et en fait... comme un océan acide permet de mieux diffuser le son, et bien les baleines n'ont plus besoin de pousser la voix. Et donc, elles chantent plus grave parce qu'elles n'ont plus besoin de crier en fait pour se repérer entre elles. La deuxième explication est plus sympathique, c'est qu'avec la protection de l'espèce, les populations de baleines se sont multipliées. Et donc, comme les baleines sont moins isolées, pour communiquer, là encore, elles se repèrent plus facilement et donc n'ont plus besoin de crier. Donc tout ça, c'est plutôt rassurant. Et dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est que l'action de l'homme sur la baleine, sur son environnement, a un impact direct dans le positif ou dans le négatif. Et donc ça ne doit vraiment pas nous laisser. C'est indifférent.
Merci beaucoup Anne Le Gall. Une fois n'est pas coutume, parce que Jean-Philippe se plaint toujours de ça. Lui, il a droit à une question vache, mais pas l'inverse. Là, pour une fois, voici la question vache de l'autre chroniqueur. Jean-Philippe Ballas.
Alléluia. Alléluia. Vous parliez des baleineaux, Anne Le Gall. Est-ce que vous savez comment se nourrissent les bébés baleines ?
Bon, moi, je crois savoir, oui. Peut-être leur mère, oui.
Eh oui, c'est du lait maternel, c'est des mammifères. Voilà,
c'était ça votre piège ? Mais comment voulez-vous nous piéger là-dessus ? Alors que moi, je sais même comment on parle les dauphins.
Vous saviez donc que les baleines avaient des pies ?
Je savais. Je ne serais pas allé jusque-là. Je ne serais pas avancé sur le terme technique. Mais j'ai déjà vu des reportages sur National Geographic. On ne me la fait pas. François Gabart, le moment est venu de vous poser la même question que mon fils de 7 ans vous poserait s'il était là. Vous avez déjà vu des baleines ?
Oui, j'ai déjà vu des baleines. On les sent aussi, ça sent très 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 fort.
Ah bon ?
Ouais, c'est quand... Alors on en voit, pas souvent, mais des fois on sent l'odeur en fait, parce que ça sent super fort.
Mais fort bon ou fort pas bon ?
Oh, pas génial quand même. Je suis habitué peut-être au bout d'un moment, mais non, c'est quand même pas trop ce qu'on a l'habitude de sentir.
Mathieu Charrier est un homme d'expérience qui a appris à tout donner au bon moment, à savoir dans le rush final.
Merci au film porno.
Oui, bref. Mon cher Pep, vous rêviez peut-être de vous lancer un jour dans l'écriture d'un polar, mais vous n'osiez pas, de peur de ne pas en connaître toutes les ficelles. Eh bien, Mathieu Charrier vous présente une BD en forme de guide du polar. C'est bien ça, Matounet ?
C'est ça, en gros. Ça s'appelle le Detection Club. Effectivement, oubliez les francs-maçons, oubliez les chevaliers de la table ronde. Ce Detection Club, c'est un club qui réunit les plus grands auteurs de polar anglais. Il est né en 1930. À l'époque, il y avait quand même parmi les membres fondateurs Agatha Christie ou Chesterton. Ça pose un club. Je vous en parle parce qu'il y a effectivement une BD qui vient de sortir et qui revient sur toute cette histoire. Alors déjà, pour rentrer dans ce club très fermé, il fallait jurer sur une espèce de crâne, une espèce de squelette qui scintillait. Vous savez, on a l'impression d'être dans un film. Mais surtout, une fois que vous êtes admis, il faut s'engager en tant qu'auteur à respecter le décalogue de Knox, qui est une sorte de code de bonne écriture en 10 points.
Et c'est-à-dire 10 règles que tous les auteurs doivent ensuite absolument respecter.
Exactement,
dans tous leurs romans.
Dans tous leurs romans. Alors, les règles, elles sont géniales. La première, elle est assez facile. Règle numéro 1, le criminel doit être quelqu'un mentionné plus tôt dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il doit pas,
oui,
il peut pas sortir de n'importe où,
c'est
sinon c'est trop facile. Bon, autre règle, l'usage de plus d'un passage secret ne saurait être toléré. C'est si à chaque fois le criminel il s'en sort par un passage secret. Bon.
Ouais.
Ou encore, des poisons inconnus ne peuvent être utilisés. Logique, parce que là aussi, c'est trop facile. À la fin, c'est finalement, on découvre. Règle numéro 5, là, c'est plus surprenant. J'ai cherché l'explication, je ne l'ai pas encore trouvée. Aucun Chinois ne doit figurer dans l'histoire.
Non, c'est véridique. Allez savoir pourquoi.
Ça n'a pas été mis à jour depuis 1930.
Je pense que c'est pour ça. C'est qu'à l'époque, il devait y avoir...
C'est la charte d'OSS 117.
C'est ça. Ou encore, règle numéro 10, il ne doit pas être fait usage de jumeaux ou d'habiles déguisements.
Ah,
parce
oui,
que aussi, c'est trop facile,
oui,
si c'est le jumeau qui a tué, etc.
Oh, bah, dis donc, ça, il y a eu des films, enfin,
oui,
peut-être pas des livres,
mais
des films qui n'ont pas respecté cette...
Alors, vous pouvez aller voir les autres règles sur Internet. Il y en a 10, je ne vais pas toutes vous les faire, mais c'est assez savoureux. Et si vous reprenez en principe les auteurs, les romans de tous ces auteurs qui ont adhéré à ce club, qui existent encore aujourd'hui, hein, eh bien, ils doivent respecter toutes ces règles.
Et alors, dans cette bande dessinée Detection Club, que deviennent ces auteurs de polar anglais ?
Oui, c'est assez drôle, parce que donc au début, on apprend l'existence de ce club et toutes les règles, etc. Mais ensuite, 7 d'entre eux sont invités par un milliardaire excentrique sur son île des Cornouailles, dans son manoir. Il tient à leur présenter sa toute nouvelle invention, qui est un robot, qui a l'apparence un peu humaine, vous voyez, fait de briques et de brocs, mais qui a une particularité, c'est qu'il avale toutes les données d'une énigme, d'un roman. Et immédiatement, il trouve le meurtrier, il trouve le coupable. Problème, notre hôte, ce milliardaire, va mourir dans la nuit. Et donc, vous voyez le truc, tous ces auteurs de polar vont devoir trouver le coupable du meurtre. Ils vont évidemment demander au robot qui c'est, qui va leur donner sa version. Sauf que chaque auteur de roman a une version totalement différente de l'histoire. Qui de l'homme ou la machine a raison ?
C'est Agatha Christie,
ça,
c'est super.
Évidemment, je ne vais pas vous le dire. C'est très drôle, c'est assez intriguant. Ça s'appelle donc le Detection Club, c'est chez Dargaud, c'est signé Jean Aramba. Le dessin est très beau aussi, c'est de la ligne claire un peu hachurée. Donc voilà, à la fois vous apprenez l'existence de ce club, que moi personnellement je ne connaissais pas, et en même temps il y a une vraie intrigue et de vrais bons moments.
Pierre-François Martin Lavette, est-ce que vous croyez à ces recettes magiques pour écrire un bon polar ? Parce que là on en rigole un petit peu, c'est marrant, et puis c'est marrant la BD aussi, mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment comme ça
Non,
des
mais
recettes
là, c'est pas pour critiquer mon ami Mathieu Charrier qui aura une note passable, comme le faire. Mais là, ce qui a l'air de se raconter, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, c'est surtout
mais,
ça. Il y a pas
mais oui, mais ça serait trop facile si on nous disait quoi faire, évidemment.
Puis surtout, c'est du bon sens qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que de ne pas utiliser trop de passages secrets, de poisons qu'on ne connaît pas, enfin, heureusement.
Donc en fait, vous êtes en train de
d'auto-détruire
votre chronique.
Mais ce qui est drôle, c'est de remarquer qu'ils se sont mis en place un code, finalement, qui n'est pas très difficile à respecter.
Et ben voilà, on les embrasse quand même. Hein,
en revanche, on peut, je pense, enfreindre ces règles pour faire quelque chose de comique, par exemple.
Ah bah on pourrait faire un film comique en appliquant aucune de toutes les règles, effectivement. Pierre-François Martin Laval, après la comédie dramatique, le polar, un jour, ça pourrait être...
Alors moi, non, mais je vais courir acheter cette BD pour mon frère qui se lance dans le polar. Ouais.
Ça va l'aider. Comme ça pas de chinois.
Ah, et puis pas de jumeaux. Non,
pas de jumeaux chinois. Voilà, c'est l'élimination directe. Et Baroque, vous voulez nous parler d'une série aussi ?
Mais oui, parce que je me souviens vous avoir vu en tant qu'acteur dans une série que j'avais adorée qui s'appelait Disparu.
Un vrai drame.
Un vrai drame. Excellente série dans laquelle vous étiez mais formidable. Est-ce que vous en gardez un très bon souvenir de cette série ?
Ah bah c'était un moment dont je rêvais depuis longtemps et je pensais qu'il arriverait jamais. Et là, vous savez pourquoi j'ai réussi à jouer dans cette série ? Tout simplement parce que lorsque j'ai passé des essais, la réalisatrice nordique Charlotte Brandstrom ne connaissait pas les Robin des Bois. Et en fait, vous vous rendez compte, la seule fois où j'aurais pu jouer dans un drame, c'est parce que le patron ne sait pas qui je suis et estime que je suis le meilleur aux essais. Voilà. D'ailleurs, bah, je ne l'ai jamais dit, mais je peux le dire, la production ne voulait pas de moi pour cette série. La production disait non, pas de comique dans cette série.
Et pourtant, voilà. Vous partagez l'affiche aussi avec François-Xavier de Maison, oui. Alors qu'il lui aussi...
Bah, c'était trop, ça faisait trop de comiques, il y avait même Alice Paul, ça faisait trop de comiques, il pensait qu'on allait faire... voilà, mais en fait, on a un cœur, on est comme tout le monde, on est juste acteur, oui. En fait.
Qui est pour vous François Gabart? Voici non pas un micro-trottoir, trop gentil pour l'inviter, voici un micro trop trash, c'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé.
François Gabart, c'est un navigateur solitaire, ingénieur de formation, INSA, GMD.
Beau mec.
Il a gagné la route du Rhum l'année dernière.
Quelqu'un a dit, il y a les vivants, il y a les morts et il y a ceux qui sont en mer. Je suis poète.
Et blond, et cheveux coiffés peut-être sur le côté. Plutôt beau gosse même.
C'est un passionné, mais en plus il fait marcher sa matière grise. Ça explique sans doute ses résultats.
François Gabart, dans quoi l'a joué?
Ah, Saint-Marin d'eau douce ou quoi?
Il a battu le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, c'est ça? C'est lui?
Oh ben écoutez, il est courageux déjà pour faire ce qu'il a fait. Moi la mer, l'eau, j'en ai peur, alors pensez donc. Voilà, au revoir.
Alors l'eau, cette dame en a peur, mais bon, elle n'est pas marin comme vous. Vous, François Gabart, vous n'en avez pas peur, mais en préparant cette émission, j'ai découvert que vous n'étiez pas fan non plus de l'eau. En fait, vous n'aimez pas nager.
Non, je suis pas un grand fan. En fait, je suis pas aquatique. En fait. Je fais du bateau, évidemment. Je fais pas mal même de surf, des activités nautiques. Mais c'est vrai que je suis pas hyper à l'aise dans l'eau. Comme il y a certains, c'est vraiment leur élément et c'est fluide et tout. Moi, c'est pas quelque chose qui est super naturel. Et en même temps, ça m'attire, ça me fascine. Mais voilà, c'est pas là où je suis le meilleur.
Vous êtes aujourd'hui, on l'a dit, recordman du Tour du Monde en solitaire. Vous êtes vraiment un héros des mers. Le journal L'Équipe écrivait en août dernier « Il est aux yeux du monde qui navigue le digne successeur de Moitessier et Tabarly. Il pourrait être classé dans le grand arbre généalogique des grands explorateurs. » C'est même plus de la notoriété, c'est-à-dire que vous êtes quasiment canonifié de votre vivant. Comment vous vivez cette exposition?
Depuis le début de l'émission, ouais.
Oui,
Europe 1 en particulier. Non, je sais pas trop, en fait. Enfin, moi, je fais mon métier, c'est-à-dire de faire des courses à la voile. J'essaie de faire ça du mieux possible. Et voilà, tout simplement, je suis quelque part heureux, flatté, finalement, que des personnes suivent nos aventures avec passion. C'est ça, en fait, qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de la course au large, c'était quelque chose d'assez très introspectif. J'avais ça au fond de moi, j'avais envie de naviguer au large. Et je ne me rendais pas compte, en fait, qu'en faisant ça, y a plein de gens qui nous suivent et qui vibrent avec nous, qui pleurent avec nous, qui vivent des émotions en fait, avec nous. Et ça, je me rends compte, ça a du sens. Et du coup, je suis quelque part super content que quand on part faire nos courses, c'est pas dans l'indifférence totale quelque part, mais que ça sert à certaines personnes de manière indirecte. Et ça, je trouve ça super important. Et voilà, et la course au large, quelque part, a une place dans notre société, comme certains... Enfin, l'artiste, on nourrit pas des gens directement, on soigne pas des gens. C'est pas des métiers avec un apport direct, en tout cas un apport en termes d'émotion, en termes de faire rêver. Et c'est peut-être encore même plus important dans notre société d'aujourd'hui. Donc je suis content quelque part de me rendre compte qu'il y a plein de gens qui nous suivent et qui vibrent avec nous, qui pleurent avec nous, qui sourient avec nous.
C'est notre invité Claire Chazal qui avait participé au pilote de cette émission cet été,
Thaïs.
Qui m'avait dit « Mathieu, rigoler c'est bien, mais attention, l'écueil de base à éviter pour une émission de bande, c'est de tous parler ensemble. N'oublie jamais que l'essentiel dans ce métier, c'est que le rendu antenne soit propre. Je crois qu'au vu de l'émission d'hier, Claire, on peut dire que j'ai bien bossé. »
Donc l'histoire.
Mais comment j'en ai plus de
temps d'entrée?
Je me sens très très bien.
C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que je vous invite, ma chère Claire, au MIPCOM. Et oui, tout ça a été réalisé quasiment sans montage, à part la musique. Hein. On n'a rien compris à cette séquence. Le grand marché de l'audiovisuel de Cannes où naissent les séries de demain. Le MIPCOM rassemble à Cannes près de 14 000 participants venus de 110 pays. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur. Cannes, c'est un peu chez vous. Le champagne, les petits fours, les paillettes, c'est votre quotidien. Mais nous, les consommateurs de programmes télé, de séries et autres produits VOD, qu'allons-nous nous mettre sous la dent dans les prochains mois?
Alors ça dépend Mathieu, ça dépend quelle télé ou plateforme vous allez choisir. En France, on reste plutôt soft. À l'étranger, ce sera à vous de juger dans un instant. Mmh. Alors plusieurs tendances se dégagent cette année. Authenticité, écologie, violence et fantastique. Voilà les ingrédients du programme gagnant. Non, pas mélangé. Ce sont les ingrédients du programme gagnant. La recette du succès, selon Glens, un institut médiamétrie. On se bouscule chaque année à leur conférence, ici au MIPCOM. Et voilà ce que les jeunes adultes, la cible principale de l'industrie audiovisuelle, ont envie de voir sur leurs écrans, télé, tablettes et smartphones. D'abord, bonne nouvelle, ils ont envie d'être éduquer, d'apprendre, de découvrir par exemple des nouveaux métiers. En Norvège, Fishing Fortune plonge les téléspectateurs dans l'univers
des poissons.
Des métiers de la pisciculture.
Oh, ça, on n'y pense pas assez, tiens, les métiers de la pisciculture.
Et on découvre comment ces travailleurs ordinaires y trouvent leur bonheur. Cette série documentaire a permis à la chaîne, qui a lancé le programme, de multiplier par deux son audience des 15-24 ans. Seconde tendance, alors plus trash, les programmes rythmés qui tiennent en haleine. Ce sont des programmes violents ou fantastiques, des fictions, des séries ou des émissions comme Zombody Save Me, oula, une compétition en Nouvelle-Zélande où 8 candidats doivent survivre face à des zombies.
Oula.
In a forest in the depths of New Zealand, the ultimate zombie survival challenge is taking place.
Ouh, c'est plutôt terrifiant. Hein. La production a 1000 paquets sur le maquillage. Les candidats doivent construire un camp pour se protéger, passer des épreuves le jour, la nuit. Mais on est dans un jeu, à la différence de ce programme néerlandais Cocaine Trails, où des jeunes ados, oui, et adultes, consommateurs de cocaïne, sont embarqués dans une virée en Colombie, dans l'enfer du narcotrafic. À leur retour, la plupart décrochent. Alors, c'est pas Pékin Express, hein. En voyage, certes, mais le programme questionne surtout nous, les Français.
Et la troisième tendance, donc, Frédéric, c'est l'intérêt des millennials pour les questions liées à l'écologie.
Oui, à des causes justes. Hein. Le consommateur est à la recherche de sens. De nombreux documentaires, magazines d'information sont proposés, mais aussi des divertissements ou des fictions. L'écologie est aussi traitée sous un angle plus positif et amusant. The Masters au Danemark voit s'affronter des couples de candidats autour du thème du recyclage. Et puis, il y a cette émission tout droit venue d'Angleterre, Meet the Family, programme dans lequel une famille, grosse consommatrice de viande, hein, c'est un petit peu votre famille, hein, Mathieu.
Oui, tout à fait.
Voilà, se voit confier pendant plusieurs semaines de jeunes animaux, poulets, veaux, cochons, agneaux.
Ils peuvent pas les manger après.
Bah, j'imagine que vous avez compris la finalité.
Ouais. Et
ils les bouffent. Non, ils les mangent
pas. Bouffez-le.
Non, les membres de la famille devront choisir.
Ah,
ils devront choisir entre devenir végétarien, hein, c'est plutôt sympa, ou accepter de voir mourir sous leurs yeux leurs petits amis. Et évidemment, de les déguster au dîner.
Chez les Noël, on a choisi, je peux vous dire déjà.
Alors, aucune chaîne française n'a acheté le programme. Pareil pour le voyage en Colombie. On reste encore, je vous le disais, très soft en France.
Merci beaucoup Frédéric Michel, vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur. Nicolas Caro, je vous laisse vous échauffer la bouche. Magnifique, je crois que vous êtes prêts à nous parler.
C'était le bruit de la mer.
Oui, on l'a bien reconnu. Vous êtes prêts à nous parler des chevaliers du zodiaque?
Eh oui, parce que j'ai reçu ce livre à la rédaction, Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, signé Alexandre Goub. C'est aux éditions de L'Opportun, qui est une chouette maison d'édition, oui, qui a toujours de très bonnes idées. Et là, c'est une sorte de livre de développement personnel qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui se base donc sur l'exemple des chevaliers du zodiaque, exemple au sens d'exemplaire. J'ai bien conscience que tout le monde ne connaît pas les Chevaliers du Zodiaque. C'est un dessin animé donc des années 80, dessin animé japonais. C'était un manga avant et il a été diffusé pendant le Club Dorothée. Le générique en français, c'était ça.
Les quatre coins de l'univers vont triompher le
Mais comment ça, on l'écoute pas en entier?
On n'a pas le temps. Bah, je me sens très, 10 minutes
très
de chronique.
Comment ça? Parce que vous n'avez pas connu ça, Eva, c'est ça?
C'est pas la génération.
J'arrive, j'ai connu les jeux, évidemment.
C'est très générationnel.
Envie de faire un porté avec Eva.
Ça me donne envie de vous voir faire un porté avec Eva.
C'est l'histoire de cinq amis, donc Seiya, Shun, Shiryu, Yoga et Iki.
Shiryu, c'est fabuleux.
Ils sont tous chevaliers du zodiaque. C'est-à-dire qu'après une initiation très difficile, ils ont réussi à obtenir une armure de bronze un peu magique qui correspond à une constellation. Donc Seiya est devenu le chevalier Pégase, le cheval ailé. Shun a obtenu l'armure d'Andromède, Shiryu le dragon, etc. Leur mission, c'est de protéger la déesse Athéna réincarnée sous le nom de Saori. Ils la protègent contre différents types d'ennemis, mais souvent contre d'autres chevaliers au service d'autres dieux. Le problème, c'est qu'évidemment, ils tombent toujours sur des chevaliers beaucoup plus puissants que
les chevaliers d'or.
Beaucoup de courage, et absolument, entre autres, d'abnégation ou d'Asgard, de sens du devoir et d'esprit d'équipe pour y parvenir. C'est ça, les chevaliers du zodiaque. Il y a eu des polémiques à l'époque sur la violence du dessin animé, mais en fait, ce que les gens ne voyaient pas, c'est que les chevaliers ont participé, à mon avis, à créer une génération de gamins prêts à tout pour faire triompher la justice, pour se dépasser, pour s'améliorer. Moi, par exemple, à 7-8 ans, j'étais le chevalier Pégase. C'est comme en littérature, on s'identifie au héros et ça vous aide à à vivre. Et donc, ce livre reprend tous les grands thèmes du dessin animé pour en faire une sorte de guide de développement personnel. Il reprend toutes les aventures des chevaliers appliquées à la vie moderne. Il y a d'abord un chapitre sur l'entraînement, comment bien démarrer, comment développer sa cosmo-énergie, l'énergie interne, le travail en équipe, la capacité à garder son calme, savoir compter sur ses amis. Comme dans cet extrait, les chevaliers sont à terre, à moitié morts, mais Seyar va se relever grâce à l'esprit d'Athéna qui l'encourage et à ses amis qui lui donnent leur énergie.
Allez, relève-toi, trouve la force de te relever.
C'est incroyable, comment fait-il pour se relever alors que la mort lui tend les bras?
Seyar, je suis avec toi.
Moi aussi, je suis là. Vas-y, courage!
Franchement, c'était quand même autre chose que la patte patrouille, hein, nos dessins animés à l'époque quand même.
Et oui, il finit par triompher. Tout le manga est teinté de philosophie antique, le livre aussi. Il y a des citations des chevaliers authentiques, comme celle-ci de Yoga, on dirait du Confucius. Penser qu'un rêve est une chose irréalisable, c'est être tel un vieillard qui a renoncé à vivre. Yoga, chevalier du cygne. Et si vous suivez les enseignements du livre, donc des chevaliers, à la fin, vous devenez chevalier d'or, c'est-à-dire un sage.
On reçoit l'armure ?
Ah bah ça, c'est pas marqué dans le livre, mais oui, vous l'aurez symboliquement en tout cas, Mathieu.
Est-ce que vous aviez conscience, Jarry, que les chevaliers du zodiaque vous avaient aidé à devenir une meilleure personne ?
Mais complètement, je le vois dans ma pratique du sport tous les jours, quand je vais faire du bois. J'ai vraiment j'ai une maîtrise de la machette. Non, c'est très très drôle comment vous racontez ça. Ça donne envie, je trouve.
Moi, puis, je le veux, ce livre.
C'est vrai, puis on comprend physiquement que vous avez traversé ces chevaliers du zodiaque.
C'est vrai, en plus.
Non, mais c'est super. Et en plus, les chevaliers du zodiaque, ça s'inspire aussi beaucoup de la mythologie et des grandes figures de la mythologie, ce qui permet aujourd'hui d'être dans la psychologie, du coup, dans ce bien-être. Aujourd'hui, on a besoin de coach pour tout, quoi. Tu veux faire de la cuisine ? Il y a un coach cuisine.
Non, c'est très sympathique. Et vous me l'offrez ou vous l'offrez, Jarry ? Qui le choisissez ?
Alors, moi,
pour Jarry, parce que j'ai un double exemplaire, je vous le donnerai plus tard, Mathieu.
Bien joué ! Il est fort, ce Nicolas Caro. Charles Berling, vous avez compris le principe de notre émission.
De voir ses amis se déchirer de façon aussi violente, ça provoque l'hilarité générale.
Exactement. On ne saurait mieux résumer notre émission. Il est fort, Charles Berling. Je vais jouer franc jeu avec vous néanmoins. Quand vous vous retournerez sur votre carrière, Charles Berling, vous réaliserez un jour qu'il y a eu deux moments fondateurs, décisifs. Votre casting avec Claude Sauté pour le casting de Nelly et Monsieur Arnaud et votre quiz face à Eva Rock. Êtes-vous prêt à relever le défi ?
Il n'a pas dit oui,
oui
ni non.
Oui, je suis prêt.
Mais il a peur.
Mais je suis très mauvais au quiz.
Elle aussi.
Non, mais moi aussi.
Alors, chaque jour, un quiz. En hommage à la pièce de Yasmina Reza Art, que vous jouez avec Jean-Pierre Darroussin, on a décidé aujourd'hui de faire un vrai faux sur l'art. Ça montre qu'il y a de la créativité dans notre émission. Attention, chaque bonne réponse vaut un point. Charles Berling, un pigeon, est capable de différencier un Picasso d'un Monet. Vrai ou faux ?
Faux.
Vrai. L'université de Kyo, au Japon, a mené des expériences sur des pigeons à qui on a montré des toiles de Picasso. Ils devaient picorer sur un interrupteur pour avoir de la nourriture. Quand on a mis d'autres toiles avec d'autres interrupteurs, mais en les mélangeant avec d'autres peintres, ils ont obtenu un taux de bonne réponse de 90%. Vous avez compris,
Eva ? Ah oui, mais la question est truquée, parce que moi, on me dit Picasso ou Monet. Mais non, est-ce qu'il peut différencier Picasso d'autres peintres ? C'est pas la même chose. Non, franchement, affinez vos couilles.
Une réclamation a été déposée par l'invité.
Ouais, c'est triché, quoi.
L'huissier l'étudiera tout à l'heure. Eva Rock, vous connaissez le peintre néerlandais du XVIIe siècle Vermeer.
Oui.
Mais Vermeer, c'était son nom ou son prénom ?
Si vous me posez la question, je pense.
Regardez
que...
peut-être l'invité qui vous fait des grands signes.
C'est son nom.
C'est son nom, bonne réponse. Son prénom, c'était Johannes. Par contre, pour Rembrandt, c'est son prénom.
Prénom.
Et oui, puisque son nom, c'était Van Rijn. Et je vous rappelle que Juste Fontaine, c'est juste son prénom. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. En 2006, Steve Wynn vend un Picasso intitulé Le Rêve. Un accord est trouvé sur le prix, 139 millions de dollars. Mais au dernier moment, la vente capote. Pourquoi ? 1. Steve reçoit un coup de fil de sa mère qui finalement veut l'accrocher au-dessus de son lit. 2. Steve donne un coup de coude dedans et fait un trou. 3. Steve ne se souvient plus dans quel coffre il a mis le Picasso.
Et je suis comme vous, Charles. Je pense que c'est la 2, c'est le coup de coude dans la toile.
Alors vous dites le coup de coude dans la toile, oui.
Et Charles
moi
aussi.
Ouais.
Vous aussi, et vous avez raison, tous les deux. Un gros trou.
Monsieur, qu'est-ce qu'on a gagné ?
Vous allez voir. Un mug européen, probablement. Un gros trou de 20 cm, et ce, juste avant la vente. Finalement, il vendra la toile réparée 7 ans plus tard pour un montant de 155 millions de dollars.
Ah ben. Vous voyez, bien je l'ai chez moi, cette toile. C'est pour ça que je le savais. Parce qu'il y a le petit truc, là. C'est recousu.
Eva Rock, Tim Patch, plus connu sous le pseudo de Picasso, peut faire votre portrait pour $75 et ce, en peignant avec son sexe. Vrai.
Mais alors, le pire, c'est que je suis sûr que c'est vrai, cette histoire.
Vrai.
Voilà,
eh ben, vous avez raison, voilà. Vous avez gagné. Il a déjà fait des portraits de Michael Jackson et George Bush. Il utilise de la peinture acrylique pour ne pas endommager son pinceau. J'aime cette précision. Enfin, Charles Berling, cette question va vous départager. Voici quatre stars. Qui, parmi ces quatre stars, n'a jamais peint de sa vie? Boris Vian, Charles Bronson, Julio Iglesias ou Zaz?
Zaz.
Vous avez tort, la seule personne qui n'est pas peint ici, c'est Julio Iglesias. Ah bon, eh oui, sûr. Vous pouvez voir les peintures de Zaz sur son compte Instagram.
Absolument.
Vous quel faux cul, quel acteur, ben. Mesdames et messieurs, Charles Berling. Il peut tout jouer, hein, il peut tout jouer. Ah, oh, j'adore Zaz. Bronson et Vian ont peint régulièrement. Julio Iglesias, vu son nombre de descendants, avait autre chose à foutre.
Merci Mathieu.
Avec mauvaise foi, c'est Charles Berling qui gagne.
Qu'est-ce qu'on a gagné, Mathieu?
Je vous dis, un mug européen. Et vous repartirez chez vous avec et vous serez bien heureux. J'évoquais tout à l'heure le casting que vous avez passé avec Claude Sauté pour votre rôle dans Nelly et Monsieur Arnaud. Et j'aimerais que vous nous racontiez ce qu'il vous a dit, Claude Sauté, les raisons pour lesquelles il vous a choisi, car je trouve que c'est très juste.
vous les prouvez aujourd'hui. Et il m'a dit, toi, je vais te prendre pour ce rôle parce que quand tu dis quelque chose, quand tu affirmes quelque chose, on ne sait jamais si tu parles sérieusement ou si tu te fous de notre gueule.
Mais en lisant le dossier, j'ai trouvé que c'était vraiment la phrase qui vous résumait bien.
Ah bah merci.
Bah non, mais c'est la force d'un acteur.
Bah oui,
c'est mieux.
C'est une force.
Louis Jarry.
Excusez-moi, madame, quand vous rigolez, vous faites bouger vos seins.
Oui, essayez de ne plus rigoler, Anne, pour ne pas troubler l'invité et ne pas fausser son jugement. Anne, on vous écoute. Un botaniste veut recréer des forêts vierges. Oui, mais ne bougez pas, parce que là, ça continue.
Vous rigolez, là.
Vous rigolez, et donc mais là, oui. Voilà, ça ne va plus. Un botaniste veut recréer des forêts vierges en là, Europe.
Déjà, ils sont tombés de 20 cm. Hein.
Oui, mais ça, c'est un autre problème. Bon, alors, un botaniste... Pardon.
Comment démarrer là-dessus?
Ah, reconcentrons-nous. Ne bougeons plus, surtout. Essayons d'être statiques.
Allez, la nature.
Restons statiques. La nature avant tout. Fascinante nature. Un botaniste veut recréer des forêts vierges en Europe et faire en sorte que les hommes n'y mettent plus les pieds pendant 1000 ans. J'ai dit 10 000 ans tout à l'heure. J'ai un peu survendu le truc. 1000 ans, c'est déjà pas mal.
1000 ans, c'est beaucoup.
Mais est-ce bien raisonnable?
En tout cas, a priori, oui, parce que l'idée vient d'un botaniste réputé, Francis Allais, spécialiste des forêts tropicales, 81 ans, voyageur infatigable, et il s'inquiète aujourd'hui de la disparition des forêts primaires. Des forêts primaires, il en reste... Enfin, il y a un tiers des forêts en Europe, dans le monde aujourd'hui, qui sont des forêts primaires, et elles disparaissent très rapidement. Donc, forêts primaires, ce sont les forêts intactes de toute activité humaine.
Oui, c'est pas Boulogne, quoi. C'est pas le bois de Boulogne.
Par exemple.
Il y a aussi des certains qui se livrent à des activités assez primaires dans le bois de Boulogne. Ça n'en fait pas pour autant un bois primaire.
Donc, ces forêts primaires disparaissent à la vitesse de 15 millions d'hectares chaque année. C'est la superficie de l'Angleterre. Et ça, évidemment, ça chagrine Francis Allais.
Je voudrais montrer aux gens que la biodiversité, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et qu'on est encore très très loin d'en avoir fait l'inventaire. Et comme les forêts tropicales disparaissent très vite, on a des raisons de penser que tout ça va disparaître avant d'être réellement inventorié. Je trouve ça monstrueux. Mais enfin, je ne sais pas quoi faire.
Voilà, témoignage.
Attendez, à l'instant, un SMS de Jair Bolsonaro. Qui est ce con?
Voilà, témoignage à retrouver sur le site de la Fondation Cartier qui consacre en ce moment une grande exposition aux arbres. Alors en fait, il sait ce qu'il faudrait faire, Francis Allais. Il faudrait, au-delà de la protection des forêts primaires au Brésil, en Amazonie, en Indonésie, au-delà de la seule forêt primaire qui reste encore en Europe, la forêt de Białowieża en Pologne, eh bien il faudrait, selon Francis Allais, recréer des corridors de forêts primaires dans l'Union européenne, donc regrouper des forêts et interdire à l'homme d'y accéder, en faire en fait une sorte de sanctuaire. Et dans ces zones-là, il ne faudrait donc plus mettre les pieds pendant 1000 ans.
Et pourquoi cette date de 1000 ans?
1000 ans, c'est le temps qu'il faut pour qu'une forêt secondaire redevienne primaire, donc avec sa biodiversité au maximum. Puisqu'en fait, dans la nature, pour que la biodiversité regagne ses droits, il faut vraiment des cycles très longs. Donc c'est 1000 ans en zone tempérée, c'est 700 ans en zone tropicale.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais pourquoi c'est si important d'avoir des forêts primaires et des forêts avec des arbres centenaires? C'est déjà pas mal, non?
Alors c'est déjà pas mal. Une forêt comme la forêt de Troncay dans l'Allier, où il y a des arbres qui ont 300 ans, c'est déjà pas mal. Mais une forêt primaire contient 5 fois plus de végétation qu'une forêt secondaire. Et oui. Et puis dans une forêts primaires avec des arbres centenaires couverts de mousse.
Non, non, mais je suis complètement d'accord avec
c'est
vous.
C'est vrai,
Jarry. Non, je suis complètement d'accord. Je suis parrain d'une association qui s'appelle Nature Dive, où on protège les fonds marins et la biodiversité maritime. Et c'est très, très important. Il faut savoir que des choses qui nous semblent infiniment petites sont en voie de disparition et ces choses ne pourront jamais être de nouveau d'actualité. Donc c'est très, très important et je crois que les gens ne se rendent pas compte.
Pour dire à quel point Jarry est sincère, je crois que même que vous aviez prévu, si jamais tout devait s'arrêter, je ne vous le souhaite pas, vous aimeriez ouvrir un club de plongée.
Mais oui, mais comment le savez-vous?
Bah je ne sais pas, je l'ai
donc vous
part.
Êtes dans ma tête.
Probablement. Une connexion.
Non, je suis très concerné. On est en train de mettre en place dans le sud de la France des espaces naturels parce qu'il y a plus de la Posidonie, par exemple, qui permet aux poissons de se nourrir et de se reproduire. Il est en train de disparaître. Il y a des nacres. Toutes les nacres aujourd'hui en Europe du Sud ont disparu à cause d'une bactérie depuis un an. Donc la situation est plus que préoccupante. C'est important. Donc moi, j'encourage ce monsieur. Alors 81 ans, on n'est pas sûr qu'il voit la fin du projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très important.
Et c'est très important parce que des vieux arbres, en fait, une vieille forêt, ça permet, pourquoi beaucoup de biodiversité? Parce qu'il y a les mousses, parce qu'il y a la taille des arbres qui permet de stocker du carbone.
Ne faites pas ce geste. Ils nous suivent sur
europe1.fr. Il y a une superficie de feuillage qui fait que le CO2 est stocké de façon très, très efficace. Et puis, même sous terre, une forêt primaire a un rôle remarquable par son réseau racinaire qui permet non seulement de retenir de l'eau, mais aussi d'établir une communication entre les arbres. Les arbres communiquent par les racines avec un réseau très, très sophistiqué de racines, en lien aussi avec les champignons parfois. Et ça permet de s'adapter à l'environnement, aux maladies, aux parasites et à la sécheresse.
Et ça régule les températures. Il faut savoir qu'une forêt, en cas de canicule, on peut gagner jusqu'à 8 degrés.
C'était la chronique environnement d'Anne Le Gall et Jarry, vraiment à égalité d'informations fournies.